Donc juste le contenu de ces pages, hein, nous les étudierons après tout au long de la conférence. Donc d'abord, j'ai commencé par traduire donc une lettre de Bordiga, donc la personne en question, qu'elle a écrite donc à un de ses amis. Je vous expliquerai exactement de qui il s'agit. C'est une lettre qu'il a écrite. J'ai oublié de marquer la date en 1969, c'est-à-dire juste avant de mourir, puisqu'il meurt en 70. Après, j'ai mis sur les pages 2, 3, j'ai mis quelques citations qui me semblaient bien refléter les positions de la personne en question. Et enfin, à partir de la page 3, j'ai mis une bibliographie qui n'est pas commentée, simplement une bibliographie avec donc les titres des œuvres. Hein, que j'ai divisé en deux parties, avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et enfin, la page 6, j'ai mis quelques livres qui existent en français, assez peu. Et une bibliographie italienne. Voilà. Donc ça, c'est un petit document, bon, auquel on pourra se référer durant la conférence, et que vous garderez que pour vous. Hein? Voilà. Qui n'a rien d'ailleurs de très très original. C'est simplement des recherches de citations et de livres. Voilà. Alors, pour parler de la personne en question, donc Amadeo Bordiga. Donc Amadeo Bordiga est une personne qui est apparue, hein, qui est apparue, donc a commencé à militer à peu près en 1911. Alors, pour cette raison, j'ai partagé l'avis de Amadeo Bordiga, qui n'est pas non plus très original, en deux parties. Sa partie que j'appellerais sa partie de militance publique. Hein. Il a commencé donc à militer en 1910, il a commencé à écrire en 1911, et il est, peut-on dire, sorti de la vie publique en 1930, hein, avec son expulsion du Parti communiste, hein, qu'il avait fondé. Donc en 1930, il a été exclu pour trotskisme, ce qu'il n'était pas d'ailleurs. Et donc il est rentré, il a abandonné la vie publique, et jusqu'en 1945, voilà. Donc de 1930 à 1945, il a été déporté, emprisonné, il a travaillé, il était ingénieur. Et à partir de 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et il a à nouveau réapparu. Politiquement, mais cette fois-ci de façon non publique, dans la mesure où le parti qu'il a fondé n'avait plus aucune effectivité, était un petit parti extrêmement réduit de militants et qui s'était posé comme tâche, surtout une tâche théorique, et plus une tâche d'intervention politique. Voilà. Donc deux parties, sa vie publique jusqu'à 1945 et sa vie après de 1945 à 1970. Puisque on peut dire jusqu'au bout, enfin jusqu'en 69, il a continué à avoir une activité théorique, malgré l'attaque qu'il avait eue à la tête, hein, en 1966. Voilà. Donc voilà en gros le cadre. Donc je vais essayer de vous parler, donc je vais faire une sorte d'exposé chronologique, et en même temps, ce qui est un petit peu difficile, je vais essayer de vous expliquer et de vous donner ses positions théoriques. Voilà. Donc Amadeo Bordiga apparaît en 1910. Il est d'une famille relativement aisé. Hein. Il s'appelle Amadeo Bordiga et non pas Amedeo Bordiga, ce qui est Amadeo Bordiga, donc c'est une petite coquetterie italienne, puisque théoriquement le nom c'est Amadeo. Amedeo. Donc il s'appelle Amadeo Bordiga, d'une famille relativement aisée. Le père est professeur d'économie politique, spécialisé en agriculture. Voilà. Et un de ses oncles, d'ailleurs, un grand professeur de mathématiques, on verra que ça a eu de l'importance pour lui. Voilà. Donc cette famille est, disons, de sensibilité de gauche, et très vite essaye évidemment de l'attirer dans les rangs de la franc-maçonnerie, qui à l'époque était évidemment une organisation très importante, hein, qu'on pourrait appeler de la gauche La gauche socialiste, gauche bourgeoise. Voilà. Et une de ses premières activités, donc à Bordigard, un de ses premiers travaux, va être justement de lutter contre l'influence de la franc-maçonnerie dans le Parti socialiste. Donc, il va refuser de rentrer dans la franc-maçonnerie. Il rentre dans le Parti socialiste. Et dans le Parti socialiste, il ne va avoir de cesse de se débarrasser justement de la franc-maçonnerie. Bon, lui, ce qu'il veut, Amadeo Bordiga, c'est trancher net. Hein, ça sera une constante, un invariant de sa pensée. On verra l'importance du concept d'invariance chez Bordiga. Un invariant de sa pensée, séparer clairement et nettement le capitalisme du communisme. Voilà. Et notamment sur le plan de l'organisation et sur le plan de la théorie. Donc pour lui, la franc-maçonnerie fait partie de ce qu'il appellera la gauche bourgeoise, et qui veut essayer d'utiliser le prolétariat, le mouvement socialiste, pour lutter contre les ennemis de la franc-maçonnerie, qui à l'époque était le cléricalisme principalement. Voilà. Donc lui, Bordiga va dire non, hein, le prolétariat a son programme, il a sa théorie, il a ses principes qui n'ont rien à voir avec le programme de la bourgeoisie. Si la bourgeoisie veut lutter contre l'Église, c'est son problème, et nous, on n'a rien à voir à faire là-dedans. On n'a pas à mener de révolution féodale, on a simplement à lutter pour notre programme qui est le communisme. Voilà. Et aucune alliance ne doit être possible, aucune alliance ne doit être faite avec les forces de la bourgeoisie. Voilà, ça va être un thème, là aussi, invariant, qui va revenir tout au long de sa vie. Séparer nettement le communisme du capitalisme. Et on peut parler d'un certain manichéisme donc chez lui, qu'il d'ailleurs acceptait tout à fait, se revendiquait. Manichéisme non pas au sens erroné du terme, hein, puisque dans la langue française on parle de quelqu'un de manichéen, c'est quelqu'un qui voit tout en blanc et en noir. Mais lui c'est un petit peu le contraire, il voyait en fait tout en blanc et noir, et voulait justement séparer le blanc et le noir. Il voulait séparer le capitalisme du communisme. Que le programme du communisme soit bien nettement délimité. D'où, par exemple, il va avoir une certaine animosité contre les fameuses classes moyennes, hein, qui pour lui, les classes moyennes étaient les classes qui étaient entre les deux, entre le capitalisme et entre le communisme. Et lui, une de ses principales activités, ça devait être de lutter contre ça, justement, et de refuser ce qu'on pourrait appeler le mélange. Voilà. Donc lui, il est pour les... Bordiga pour les séparations nettes et précises. Hein. Il n'est pas du tout pour les mélanges, bien au contraire. Il est au contraire pour les séparations très nettes. On verra après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il va être un ennemi farouche, hein, de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on a appelé après la Deuxième Guerre mondiale, l'œcuménisme. Hein. Pour lui, pas d'œcuménisme, il est nécessaire que chacun ait ses principes, chacun soit rangé dans son camp, et une de ses devises était qui n'est pas avec moi et contre moi, enfin qui n'est pas avec nous et contre nous. Parole qu'avait prononcée déjà un révolutionnaire il y a à peu près 2000 ans. Hein? Voilà. Donc en gros, voilà comment Bordiga se manifeste, et sa première manifestation va être les manifestations de 1911. En 1911, l'Italie déclare la guerre à la Turquie. Hein? L'Italie déclare la guerre à la Turquie pour s'emparer de la Tripolitaine. Enfin, on appelait ça la Tripolitaine, ce qui est la Libye maintenant, la région autour de Tripoli. Voilà. Et donc il va y avoir à ce moment-là de grandes manifestations ouvrières, de grandes manifestations socialistes pour protester contre cette guerre. Pas toutes toutefois, puisqu'un certain nombre de syndicalistes, etc., vont se rallier à déjà une ébauche d'union sacrée et accepter cette guerre. Bon, lui va farouchement s'opposer à cette guerre en la dénonçant comme une guerre impérialiste, une guerre colonialiste, etc. C'est à ce propos qu'il va commencer à militer, qu'il va s'ouvrir à tous ces problèmes. Ces problèmes. Voilà. Et donc, dès 1911, il se manifeste, il commence à écrire, etc. Alors, une de ses particularités, c'est que dès qu'il va commencer à militer, il va se manifester par une activité particulièrement intense. Hein. Bon, Bordiga était physiquement, je montrerai peut-être des photos si j'ai le temps, Bordiga était une force de la nature, ce qu'on pourrait appeler maintenant une force de la nature. Hein. C'était quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, physiquement, avec une voix puissante, une voix de stentor, comme il existait des orateurs, hein, avant l'invention du micro et même après l'invention du micro dans le mouvement ouvrier, il avait la taille, l'envergure d'un Jaurès, hein, vous voyez, d'un orateur de cette sorte, ou même tout simplement de Mussolini, lui aussi grand orateur, grand rhéteur, etc. Donc, il développe immédiatement une activité énorme, hein, écrivant, se manifestant, etc. Dès 1912, il va se livrer à une polémique très importante dans le Parti Socialiste, qui est ce qu'on appelle la politique anticulturaliste. Il va se développer dans le Parti Socialiste deux positions. La position d'Angelo Tasca. Angelo Tasca était un socialiste qui va défendre l'importance de la culture. Voilà. Donc Angelo Tasca défend l'importance de la culture et va donc déclarer qu'il est important pour les socialistes que les ouvriers se cultivent. Hein, se cultivent parce qu'ils sont ignorants, etc. Donc il faut absolument que les ouvriers se cultivent, les jeunes se cultivent, etc. Bordiga réagit très violemment contre ça en disant les ouvriers n'ont pas à se cultiver, ils ont à détruire le capitalisme avant tout. Hein. Et il a déclaré donc dans un fameux congrès, il a déclaré à Tasca et donc l'Assemblée, il a dit c'est un congrès de professeurs, hein, de déclarer la nécessité de la culture, mais pas un congrès de socialistes. Voilà. Donc dès le début aussi de son activité, une opposition à la culture qui pour lui est toujours bourgeoise. Hein, la culture est toujours bourgeoise, toujours capitaliste. Elle est toujours destinée à renforcer l'État existant, la société existante. Mais à côté de ça, paradoxalement, une importance sur la théorie. Voilà. La théorie est très importante. La théorie a une importance énorme, hein, pour Bordiga. Elle est le bien le plus précieux du parti. Et donc, il va falloir les défendre. Voilà. Alors, cette théorie, pour Bordiga, est invariante. Voilà. Ça, c'est donc un concept très important. Je m'explique tout de suite là-dessus, j'essaye en tout cas. La théorie est invariante. Bordiga est tout sauf un progressiste. Hein. De ce côté-là, il a une dimension réactionnaire, hein, qu'on pourrait appeler réactionnaire, enfin défendue par d'autres gens qui étaient d'un côté plutôt réactionnaire. La théorie, elle est née en 1848, pardon. Donc la théorie est née en 1848, elle est née non pas de Marx, qui n'a été qu'un porte-parole, hein, du prolétariat, en fait une nouvelle classe. En 1848, une immense déchirure sociale se crée, ce qu'il appellera une discontinuité, hein, une discontinuité, un abîme, un abysse. Et donc, lors de cette fracture énorme, eh bien, se crée une discontinuité et donc se crée la possibilité d'une nouvelle théorie. Une théorie qui va être la théorie d'une nouvelle classe, et cette théorie, c'est le communisme. Cette classe, c'est le prolétariat, dont Marx va être le haut-parleur, et dont Marx va être le codificateur, disons le systémateur. Hein. C'est Marx qui va produire la théorie. La théorie, elle paraît donc immuable, invariante. Donc évidemment, pour Bordiga, il n'y a aucun progressisme, et la théorie apparaît pure, définitive. Et après, il va falloir évidemment la défendre. Hein. Il va falloir la défendre. Donc voilà, ce concept de. Pourrais-je enlever le micro? Voilà, ça me serait plus simple. Voilà. Voilà. Donc ce concept d'invariance donc est très important pour lui. Il l'a réaffirmé tout au long de sa vie, avec évidemment plus ou moins de vigueur, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et donc pendant certaines époques, il y a certaines époques qui sont des discontinuités, qui sont des époques de richesse, hein, de fusion théorique. Et pendant cette époque naissent des théories. Voilà. Une fois que cette époque est passée, eh bien, il n'y a plus grand chose à faire. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement de la théorie. Il ne peut pas y avoir de mise à jour de la théorie. Je voulais vous lire un petit passage, hein, sur justement la théorie et son invariance, si je le retrouve. Voilà. Donc une de ses premières prises de position, ça va être ça, défense de la théorie, invariance de la théorie, et lutte contre ce qu'il va appeler les révisionnistes. Hein. Alors les révisionnistes dans le mouvement marxiste, c'est ceux qui révisent le marxisme, c'est-à-dire ceux qui essayent de le mettre à jour, de dire qu'il y avait des phénomènes nouveaux que Marx n'avait pas vus, Marx n'avait pas connus, et pour lesquels il est nécessaire à nouveau de théoriser. Bon, pour Marx, pour Bordiga, non. Bordiga avait, pour Bordiga, Marx avait, savait tout, il avait vu le capitalisme dans son essence, et après, si le capitalisme change, ça, il va seulement changer dans ses détails, dans certaines formes, mais fondamentalement, le capitalisme ne change pas. Et comme le capitalisme ne change pas, eh bien, la théorie n'a aucune raison de changer. Voilà. Donc, en gros, ouais, bon, je retrouve pas ma citation, mais je la retrouverai peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc en 1912, donc intervention sur ce problème du culturalisme qui va être très important parce que Tasca, dont je vous ai parlé, était en fait un ami de Gramsci, Antonio Gramsci, donc on aura souvent, dont on aura souvent à parler dans cette petite, dans ce petit compte rendu, dans cette petite conférence. Voilà. Donc en 1912, il se manifeste ainsi. Il participe au congrès de Reggio Emilia. Alors le congrès de Reggio Emilia du Parti Socialiste donc est très important. Il va voir la lutte de Bordiga et de Mussolini, qui étaient donc les deux chefs de la gauche dans le Parti Socialiste, de la gauche qu'on appelait à l'époque intransigeante. Il va voir la lutte de Mussolini et de Bordiga pour l'expulsion des réformistes. Hein, à l'époque, bon, différents réformistes s'étaient manifestés dans le parti, et donc lui, Bordiga, ne va avoir de cesse que de les faire expulser, toujours dans la perspective donc avoir un parti qui soit radical, un parti qui soit absolument communiste, et donc qui n'accepte pas les compromis avec le capitalisme, comme voulaient les passer donc justement ces réformistes. Il va faire donc expulser 4 réformistes, et il va faire expulser aussi les francs-maçons. Voilà. Donc il va conclure, si vous voulez, à l'échelle nationale du Parti Socialiste Italien, ce qu'il avait fait dans sa section de Naples. Hein? Voilà, il était sorti de la section de Naples, qu'il pensait totalement corrompu, qu'il l'était effectivement, par les idéologies socialistes, hein, donc pour lui bourgeoises. Et il avait fondé un petit cercle qu'on appelle le cercle, qui s'appelait le cercle Karl Marx, en 1912, à Naples. Voilà. Et bon, il a réussi à faire donc expulser les réformistes par la section, par la direction nationale, et donc voilà, il est rentré après, il est revenu après dans la section napolitaine, une fois la section napolitaine épurée de ces réformistes. Voilà. Alors d'abord, je fais un petit retour en arrière sur Bordiga. Donc sa formation, lui, est une formation Bordiga scientifique. Hein? Bordiga n'est pas un philosophe, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un professeur qui à l'époque évidemment était largement majoritaire dans le Parti Socialiste Italien et dans d'autres d'ailleurs, hein? C'était donc, ça va être important pour sa conception du monde, c'était un mathématicien de formation, mathématicien scientifique, physicien, voilà, ce qui l'opposait à Gramsci qui lui était évidemment de formation philosophe. Voilà, donc ça va avoir beaucoup d'importance sur lui, notamment sur sa vision de l'histoire. Il va donc être strictement déterministe. Hein? Donc, Bordiga va tirer donc de ses études mathématiques une conception du monde très 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 scientifique. Il se vantait de ne jamais avoir lu une seule ligne de Benedetto Croce. Et Croce, c'était le grand philosophe idéaliste donc italien de l'époque. Il disait qu'il n'en avait jamais une ligne et qu'il s'en moquait complètement. Voilà, mais il disait aussi, comme Boutade, il dit, on nous reproche de ne rien lire, il disait, c'est vrai, nous ne lisons rien, mais nous lisons Marx, et Marx avait tout lu. Donc, bon, plaisantait, parce que d'ailleurs, n'était pas tout à fait vrai, Marx n'avait pas tout lu. Voilà. Et voilà, alors il connaissait très bien donc les écoles mathématiques italiennes, qui à l'époque étaient florissantes, et notamment très très grand mathématicien italien qui s'appelait Giuseppe Peano, et qui l'a beaucoup influencé, mais il connaissait aussi très bien Poincaré, hein, et donc le grand philosophe et grand mathématicien français. Voilà, il avait aussi évidemment différents héros, hein, parmi les grands physiciens bourgeois, Newton, Galilée, Einstein. Il avait une grande admiration pour Einstein, pour lequel il a écrit en 1955, à la mort d'Einstein, un grand article qui s'appelait « Relativité et déterminisme ». Voilà. Donc, il va essayer d'utiliser, pour résumer, la science bourgeoise contre la bourgeoisie. Il estime que la bourgeoisie a été très audacieuse contre le féodalisme, notamment avec Laplace. Et vous savez que Laplace avait dit, bon, si on connaît exactement la situation du monde physique à un certain instant, eh bien on peut en déterminer sa situation à n'importe quel moment, à n'importe quel moment du temps, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. La place croyait un déterminisme absolu dans les sciences de la nature, notamment en physique. Bordiga va reprendre ça en disant, nous croyons effectivement un déterminisme total, mais sur le plan social. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons, nous, la certitude, Parti communiste, nous avons la certitude que le communisme vaincra. On aura l'occasion de revenir sur ce problème de la certitude, qui est aussi quelque chose de très important chez Bordiga. Il disait, il reprochait à la science bourgeoise d'avoir abandonné ce déterminisme. Le déterminisme était revendiqué par la bourgeoisie contre, selon Bordiga, contre le féodalisme, notamment dans le sens, dans le domaine donc de la physique, dans le domaine cosmique, cosmologique, et abandonné dans le domaine social. Et Bordiga dit que la bourgeoisie a abandonné le déterminisme parce qu'elle avait peur. Elle avait peur, évidemment, que le déterminisme se retourne contre elle et prévoie la fin de sa société et l'avènement du communisme, donc du prolétariat. Et vous savez qu'effectivement, au XXe siècle, sont apparues des écoles en physique antidéterministes, notamment l'école de Copenhague, qui disait, Laplace s'est trompé, il n'y a pas de déterminisme, on ne peut rien prévoir. C'est le chaos, c'est les théories du chaos, etc. Et Bordiga, évidemment, était viscéralement opposé à toutes ces théories du chaos, du hasard. Pour lui, il y avait déterminisme absolu. Le communisme ne pouvait que l'emporter. Voilà. Alors on verra que le communisme est pour Bordiga une science. C'est la science du communisme. C'est la science de l'humanité. C'est la science de l'humanité en devenir. C'est aussi également une théorie de la connaissance. C'est donc quelque chose d'assez grandiose. Le communisme n'est pas la théorie du capitalisme. Il dira plus souvent que Marx n'a pas écrit la biologie du capitalisme, mais il a bien écrit sa nécrologie. Voilà. Et donc Marx s'intéresse accessoirement seulement au capitalisme, ce qui l'intéresse, c'est le communisme. Voilà. Et même il ira plus loin ensuite. Il dira que le marxisme n'est pas seulement une théorie sociale, mais c'est une théorie totale qui explique la totalité de l'histoire humaine et même la totalité même du cosmos, etc. Vous voyez, donc c'est pour lui le communisme, c'est quelque chose de très ample. Voilà. Dès 1914, donc après ces conflits de 1912, dès 1914, il va s'intéresser à la démocratie et tout de suite il va prendre une position donc tranchée qui va être la position pérenne, la position de toute sa vie. Il va se manifester totalement contre la démocratie. Alors c'est un point irréductible chez Bordiga qui l'empêche d'être récupéré par beaucoup d'autres écoles marxistes, c'est-à-dire que lui est totalement antidémocratique. Il ne va pas réclamer une démocratie ouvrière, une démocratie directe, une démocratie participative, pardon, une démocratie socialiste. Non, lui dit, nous n'avons rien à voir avec la démocratie. Et on revient justement à ce que je disais tout à l'heure au début. Les deux substances, le communisme et le capitalisme, sont totalement séparées. Et parler de démocratie socialiste, par exemple, ce serait avouer qu'il y a quelque chose de commun entre le communisme et le capitalisme. Non, pour lui, non, non, non. Il refuse absolument toute démocratie. Et la démocratie, pour lui, c'est tout simplement un régime bourgeois. Alors ça va être une position très importante pour lui, qui va lui faire refuser, et ça, j'anticipe un peu, qui va lui faire refuser tout antifascisme, toute défense de la démocratie contre le fascisme. Et c'est une position donc, qui est évidemment très important. Dès 1914, il dit, s'il y a donc une négation complète de l'action démocratique, elle réside dans le socialisme. Voilà. Et donc c'est une révolution, c'est une position évidemment, disons, très originale. Voilà. Et donc dès le début de son engagement, donc 1912-1914, il affirme déjà les positions qui vont être les siennes tout au long de sa vie. Si vous regardez dans le petit formulaire que je vous ai distribué, bon, à la page 3, il y a une petite citation, bon, assez amusante. Une citation de... C'est la dernière des citations, c'est la seule qui n'est pas de Bordiga, c'est une citation de Umberto Terracini. Donc Umberto Terracini, c'était un de ses amis très proches, qui est devenu, après, s'est rallié à Staline et au communisme, disons, bolchevique. Et donc ils se sont évidemment totalement perdus de vue. Et dans les années 60, ils se sont revus. Et voilà ce que dit Terracini, ben, vous lisez comme moi, c'est très amusant, il dit « Ce fut une chose étrange ». Étrange, évidemment, pour Terracini. Il me répéta les choses que je lui avais déjà entendu dire en 1922, en 1923, en 1924. Je m'aperçus qu'il n'avait pas changé d'une virgule de ses convictions, sa mentalité, sa façon de penser. Voilà. Et en fait, Bordiga est toujours resté, justement, lui-même invariant. Hein. On verra tout à l'heure que Togliatti, pour essayer de le ridiculiser, l'avait appelé, dans les années d'après-guerre, l'avait appelé l'iguanodon. Hein. Il avait parlé de l'iguanodon napolitain, et voulant dire par là que c'était une sorte de dinosaure, vous voyez, qui n'était pas capable de s'adapter, ce qui est d'ailleurs totalement vrai. Hein. Voilà. Et donc, pour revenir à ce problème de la démocratie, donc pour Bordiga, il y avait plus de dangers, hein, dans la démocratie, dans le socialisme, que on va le voir dans la dictature, hein, dans la mesure où le socialisme, la démocratie corrompt, hein, corrompt le programme communiste, puis que le programme communiste n'est absolument pas basé sur la démocratie. Pour Bordiga, la démocratie consiste à faire disparaître, hein, à réunir ce qui doit être désuni, c'est-à-dire à regrouper les ouvriers avec les capitalistes, avec les bourgeois. Voilà. La démocratie réunie. Et ce qu'il voulait, évidemment, surtout pas, il voulait séparer nettement, hein, les ouvriers, évidemment, de les ouvriers en tant que classe, pas en tant qu'individu, bien sûr. Voilà. En 1915, la déclaration de la guerre pour l'Italie, la guerre était déjà commencée depuis un an, en France, en Allemagne. Donc en 1915, la guerre se déclare, et évidemment, Bordiga, lui, va tout de suite adopter des positions qui seront en fait celles de Lénine, qu'il ne connaissait pas, car un point que j'ai omis de préciser, c'est que Bordiga ne va pas du tout, à cause du l'état de sous-développement d'Italie, eh bien, sous-développement capitaliste, Bordiga ne va pas être un personnage international de la deuxième internationale, justement. Hein, on ne va pas le voir dans les grands congrès de la deuxième internationale. Il va avoir une activité tout simplement nationale. Pourquoi ? Bien parce que la deuxième internationale, vous le savez, était centrée sur l'Allemagne, en fait. Hein, et donc c'était les théoriciens allemands qui étaient les ténors, hein, si vous voulez, du socialisme mondial, et qui tenaient évidemment le haut du pavé. C'était eux qui dirigeaient, etc. Et donc on rencontrait dans les congrès, dans les grands congrès internationaux, qui d'ailleurs la plupart se déroulaient évidemment dans l'ère allemande, on rencontrait la plupart du temps des théoriciens allemands, parfois des Français, évidemment, hein, on voyait Jaurès, etc., parfois des Belges, Van der Belde, mais on voyait évidemment très très rarement, hein, très très rarement d'Italiens. Et Bordiga ne s'est jamais manifesté dans les congrès internationaux. Il ne connaissait pas donc personnellement Lénine, en 1915, il connaissait encore moins ses positions, hein, vous imaginez que en 1914, communications internationales, évidemment, se sont effondrées du fait de la guerre, hein, et la censure, évidemment, était toute puissante. Il ne connaissait pas Lénine, pourtant, immédiatement, hein, il va dire, donc, notre mot d'ordre, c'est, évidemment, de refuser cette guerre, qui est une guerre impérialiste, qui est une guerre que le capitalisme nous impose, et avec laquelle nous ne devons rien avoir à faire, et nous devons, au contraire, profiter de cet état relatif d'affaiblissement du capitalisme pour lutter, et pour, évidemment, essayer de l'emporter, et de déclencher l'action révolutionnaire. Voilà. Et donc, il va n'avoir de cesse que d'empêcher le Parti Socialiste d'adhérer à l'Union Sacrée. Voilà. Alors, il faut dire qu'en Italie, le Parti Socialiste est le seul Parti Socialiste européen qui n'a pas accepté l'Union Sacrée, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu en Allemagne, comme on l'a vu en fait dans tous les pays combattants, sauf évidemment en Russie avec le Parti Bolchevique, hein, Donc il va refuser, le Parti Socialiste va refuser l'Union Sacrée avec une position, disons, moyenne, puisque son mot d'ordre va être ni adhérer à la guerre, ni saboter la guerre. Oui. Et donc le Bordiga, évidemment, est tout à fait contre cette position neutraliste et aurait voulu que le Parti Socialiste, évidemment, au contraire, sabote. Hein, sabote cette guerre. Voilà. Bien après, Bordiga reconnaîtra qu'en fait, il aurait mieux fallu peut-être laisser le Parti Socialiste accepter l'Union Sacrée pour ne pas qu'il puisse après se targuer, après la guerre, d'être resté contre l'Union Sacrée, d'être resté en dehors de la guerre auprès des ouvriers. Voilà. Il s'est dit après, on aurait mieux fait peut-être de le laisser au moins ce qui pour lui était se démasquer. Voilà. Dès 1917, bon, Bordiga va être mobilisé avec différentes démobilisations. Il va être mobilisé. Il participe quand même en 1917 à une réunion clandestine du parti. Hein? Et il appelle, hein, il appelle à prendre les armes, il appelle à s'armer. Voilà. Ce qui était donc une position évidemment très 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 radicale. En 1917, donc en octobre 1917, la révolution russe éclate. La révolution russe éclate. Pour Bordiga, ce n'est pas une surprise. Bordiga, n'est pas surpris. Bordiga, était justement, comme je vous l'ai dit, donc déjà certain, hein, il était certain, le communisme devait l'emporter, devait triompher. Il n'avait pas prévu cette révolution russe, mais il n'en est pas surpris. Bordiga sera tout le contraire de ceux qui se sont convertis en faisant, comme il disait, leur pèlerinage à Moscou, hein, et en disant, ah, j'ai vu de mes yeux, vu le communisme, ça marche ou ça marche pas, etc. Bon, lui s'en moquait totalement, hein, le communisme, de toute façon, il existait déjà dans le programme, dans le parti. Et donc évidemment, il se réjouit de cette révolution russe. Hein. Il prend tout de suite parti pour Lénine. Il va souvent, alors que là encore, je vous dis, les communications étaient pratiquement interrompues, il va souvent prévoir même les positions que vont prendre Lénine. Et voilà. Hein. Donc tout de suite enthousiaste, il écrit évidemment énormément, énormément d'articles pour défendre évidemment cette révolution russe. Et tout en s'opposant évidemment à Mussolini, qui, vous le savez, en 1915, donc avait lui participé à l'Union sacrée. Hein. Entre parenthèses, avec l'aide du gouvernement français qui finançait Mussolini pour le faire intervenir dans l'Union sacrée, aux côtés évidemment de la France. Hein. Voilà, et qui lui, c'est le C'est la France, hein, qui a donné l'argent à Mussolini et pour financer son journal Il Popolo d'Italia. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, il n'est pas du tout étonné de la révolution russe, hein, qui correspond tout à fait, selon lui, à son schéma. Au contraire de Gramsci, Gramsci va écrire un article tout de suite qui va s'appeler La révolution contre le capital. Contre le capital, c'est contre le capital de Marx. Pour Gramsci, cette révolution russe dément tout à fait les projets de Marx, et il y voit une révolution, une sorte de révolution, un peu une poussée d'irrationaliste. Hein. Vous savez que Gramsci était très influencé par Bergson, et plus par Bergson que par Marx en fait. Et donc lui, Gramsci va s'enthousiasmer au nom d'un certain irrationalisme, ce qui est pas du tout le cas de Bordiga. Voilà. Qui lui, pour lui, Bordiga, la révolution russe se fait justement avec le capital. Elle correspond tout à fait à la théorie de Marx. Voilà. Donc très vite, on arrive quand même à connaître les positions de Lénine, et tout de suite, évidemment, Bordiga va avoir une grande admiration pour Lénine, qui, pour lui, va être le restaurateur du marxisme. Voilà. Parce que je vous parlais il n'y a pas très longtemps, donc au début, du problème de la théorie apparaît tout de suite, immuable, invariante. Voilà. Il faut la défendre et lors de la Seconde Internationale, on va avoir donc un processus de décadence, de dégénérescence. Là aussi, c'est un thème qui est souvent utilisé par les gens de droite. Hein. Donc, il va y avoir une décadence de la théorie et que Lénine, excusez-moi, Lénine va restaurer. Lénine va restaurer pour Bordiga la théorie de Marx dans sa pureté. Voilà. Donc, une grande admiration pour Lénine. Lénine va être le chef de la première révolution prolétarienne victorieuse. C'est aussi évidemment une grande importance. Il va détruire donc tout le révisionnisme théorique de la Seconde Internationale, et il va évidemment surtout faire exploser l'Union sacrée et empêcher et arrêter cette horrible guerre donc de 1914. Voilà. En 1918, bon, évidemment à Naples est en ébullition. Hein, donc Bordiga est à Naples, lui, je crois que j'ai oublié de le dire. Donc Bordiga est un Napolitain. Donc Naples évidemment est une grande concentration ouvrière. Et donc, évidemment, Bordiga à la tête de la chambre du travail, hein, de la Camera del Lavoro de Naples, va évidemment prendre la tête de toutes les grèves qui vont se passer. Très vite, il va s'opposer donc à la direction du parti, hein, la direction du parti qui refuse de prendre des mesures vraiment révolutionnaires. Et en 1918, donc là c'est une date importante, en décembre 1918, il va fonder un journal qui s'appelle Il Soviet. Voilà. Alors, il fonde ce journal en décembre 1918. Il Soviet va d'abord être le journal, l'organe du Parti socialiste italien, donc section de Campanie. La Campanie, c'est donc la région de Naples. Il va très vite, en 1919, se transformer en section de la fraction communiste abstentionniste que Bordiga va fonder à l'intérieur du Parti socialiste, et pour devenir enfin organe, pardon, du Parti communiste d'Italie. Voilà. Donc, à partir de 1918, création de ce journal Il Soviet, dans lequel il va d'ailleurs traduire de nombreux articles de toute la gauche radicale européenne, hein, des articles anglais, des articles allemands, qui vont donc être traduits et publiés dans Il Soviet. Donc, sa lutte contre la direction réformiste du parti est partagée avec d'autres groupes, notamment le groupe de Gramsci et d'autres. Alors, Bordiga, à partir de 1918, essaye évidemment de chercher pourquoi. Pourquoi la catastrophe de la Première Guerre mondiale, la catastrophe d'août 1914. Alors août 1914, évidemment, c'est un traumatisme pour toute une révolution, pour toute une génération de révolutionnaires. Le prolétariat a abandonné son programme, a abandonné sa mission, en tout cas la mission que les révolutionnaires lui avaient donnée, et a accepté l'union sacrée. Voilà. Pourquoi ? Évidemment, tous les révolutionnaires vont se poser cette question. Pour Bordiga, c'est simple, à cause de la non-rupture avec la démocratie. Voilà, le prolétariat est resté lié à la démocratie, il a été acheté plus ou moins donc par la bourgeoisie, et il a été incapable de rompre avec la démocratie, d'où, pour Bordiga, avec la nouvelle période révolutionnaire qui commence en 1918-1919, la nécessité de refuser le parlementarisme. Et ça, ça va être aussi sa position de toujours, refus de la démocratie, et donc, logiquement, refus de la démocratie parlementaire, refus du parlementarisme, refus des élections. Évidemment, après la Première Guerre mondiale, dans tous les pays, il va y avoir des élections. Et Bordiga dit non, on ne doit pas participer aux élections. Et illusionné par la dissolution de l'Assemblée constituante faite par les bolcheviks en janvier 1918, il va s'imaginer un temps que les bolcheviks sont eux aussi des antiparlementaristes. Bon, il va très vite se désillusionner. Donc, en 1919, donc, il crée la fraction abstentionniste en s'imaginant, donc je vous dis que les bolcheviks, évidemment, sont aussi des antiparlementaires. En 1919, également, donc une année très riche, puisque c'est la création, non pas du parti fasciste, mais des faisceaux, hein, des faisceaux de Mussolini, qui se transformeront en parti en 1920. Donc, 1919, création des faisceaux de Mussolini, création de l'Ordine Nuovo. Donc, l'Ordine Nuovo, c'est le journal de Gramsci. Donc, si Bordiga est à Naples, Gramsci, lui, est à Turin. Hein. Donc, autour de Gramsci va se former hein, donc un petit collectif qui va donc défendre des positions, que on verra tout à l'heure, des positions qui sont un petit peu diverses de celles de Bordiga et de sa fraction, mais qui sont, elles aussi, opposées à la direction réformiste du Parti Socialiste. Donc, il va y avoir une alliance, si vous voulez, entre différents groupes opposés au Parti Socialiste, avec la perspective de faire la scission si on n'arrive pas à faire varier la direction du Parti Socialiste. En 1919, toujours, donc un grand congrès du Parti Socialiste, le congrès d'après-guerre, qui est le congrès de Bologne. Voilà. Congrès de Bologne, où Bordiga essaye de faire voter des motions favorables à la dictature du prolétariat, favorables à la révolution russe, et favorables également à l'antiparlementarisme. Voilà, toutes ces motions vont être battues. Et voilà, et Bordiga donc va et sa fraction donc sortent vaincus de ce congrès de Bologne. Voilà. Donc Bordiga après dira qu'en fait il aurait mieux fallu partir, hein, partir tout de suite à Bologne et que c'est évidemment une année entière va se perdre avant que la scission ne se fasse. Voilà. En 1920, la fraction existe. Et se tient le deuxième congrès de l'Internationale communiste. Alors l'Internationale communiste, elle a été fondée en 1919, mais son premier congrès a vraiment été vraiment un congrès de fondation, il ne s'est pas dit grand-chose. Et donc le deuxième congrès se tient dans l'été 1920, et donc c'est vraiment le congrès vraiment de fondation. Le congrès de fondation se tient un peu tard, puisque déjà la vague révolutionnaire est... sur le déclin, mais elle se déroule quand même pendant l'offensive de l'armée rouge sur Varsovie. Voilà. Et qui va être d'ailleurs évidemment un échec. Alors pendant ce deuxième congrès, donc c'est une date clé dans la vie de Bordiga, puisque Bordiga va s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler son idole, hein, enfin, va s'attaquer à Lénine. Puisque il va y avoir le heurt avec Lénine, et Lénine venait d'écrire, juste avant le congrès, Le gauchisme, la maladie infantile du communisme. Livre donc très important dans lequel il s'attaquait à ce qu'il appelait les gauchistes. Voilà. Alors les gauchistes à l'époque, hein, ce n'est pas les gauchistes de mai 68, les gauchistes à l'époque c'était ben justement Bordiga, c'était Pankouk, c'était des Allemands, c'était des Néerlandais qui refusaient le parlementarisme. Voilà. Et Lénine dit non. On ne doit pas refuser le parlementarisme et on doit faire ce qu'on appelle le parlementarisme révolutionnaire. Voilà. Il faut aller dans les parlements, il faut aller dans les parlements, se faire élire pour dénoncer la politique bourgeoise, etc. Voilà. Bordiga dira non. Hein, c'est totalement inutile, c'est une perte d'énergie. Il ne faut pas aller dans les, parlements, il faut consacrer toute son énergie, bien évidemment, à la préparation révolutionnaire. Voilà. Et donc il va y avoir un heurt avec, avec Lénine, et ce qu'on pourrait appeler l'armada bolchevique, hein, Boukharin, Zinoviev, Trotsky, qui vont être les plus acharnés contre Bordiga. Bordiga va être vaincu, et ses thèses, donc évidemment, sont repoussées. Voilà. Bordiga va être participer également à cette réunion dans la mesure où vont être votées par les bolcheviks ce qu'on appelle les 21 conditions. Les 21 conditions sont les conditions d'admission à l'international communiste. Dans ces conditions d'admission, elles vont être très sévères. Les plus sévères ont été votées par Bordiga. Hein. Bordiga n'était pas du tout, au contraire de ce qu'on a voulu dire, notamment les bolcheviks, n'était pas du tout un anarchiste, loin de là. Il était pour une internationale qui soit très centralisée, dictatoriale. Hein. Il ne voulait pas, par exemple, qu'il y ait d'autonomie des partis nationaux, ce qui était le cas de la Seconde Internationale. Il y avait un centre qui était tout à fait formel, et puis en fait, chaque parti faisait un petit peu sa cuisine et faisait un petit peu ce qu'il voulait. Voilà. Bordiga dit non, surtout pas. Il doit y avoir une dictature pas d'un homme, encore une fois, mais une dictature de la théorie, une dictature des principes. Et la tactique, en aucun cas, n'est indépendante. La tactique dépend des principes. Voilà, la tactique découle des principes, et chacun doit l'appliquer dans tous les pays, quel qu'il soit. Maintenant, comme il dira plus tard, personne n'est obligé de rester dans l'international communiste. Il y en a qui ne s'appelaient pas, ils peuvent sortir, ils ne sont pas obligés d'être là. Tout de suite, donc, dès le deuxième congrès, il va y avoir un heurt aussi avec Lénine sur le problème des partis. Qu'est-ce qu'on cherche comme parti ? Tout de suite, évidemment, on commence à s'apercevoir que le prolétariat n'est pas ce que l'on croyait. Lénine pensait dès 1918 à une révolution prolétarienne européenne qui aurait soutenu la révolution russe. La révolution russe se trouve tout de suite très isolée, ni le prolétariat allemand, sur lequel on comptait beaucoup bien sûr, hein, c'était le premier prolétariat mondial, ni le prolétariat allemand, ni le prolétariat italien, français, anglais ne se manifestent. En gros, le prolétariat, dans son immense majorité, est resté sur les positions du Parti socialiste, donc opposé à la révolution communiste. Donc, que faire de tout cela ? Lénine propose faire des grands partis, puisqu'on ne peut pas faire de partis de classe, on va essayer de faire un parti de masse, et donc on va obligatoirement édulcorer les principes, édulcorer la tactique, édulcorer la stratégie, pour pouvoir accueillir des ouvriers en masse. Voilà. Bordiga dit surtout pas, hein, surtout pas, c'est vrai, la révolution pour l'instant a échoué. La seule façon qu'elle reparte, c'est de maintenir un parti, peut-être peu nombreux, avec peut-être moins d'adhérents, mais avec une théorie stricte, hein, pure, une théorie pure, des principes qui soient absolument édulcorés. Et donc ça va être un choc de deux visions, si vous voulez, du communisme. Hein. Voilà. Donc la lutte pour le parti communiste se continue donc en Italie, et en 1921, hein, en janvier 1921, le 19 il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, donc en janvier 1921, nouveau congrès, congrès du Parti Socialiste, cette fois-ci congrès du Parti Socialiste à Livourne. Voilà. Donc congrès du Parti Socialiste à Livourne, et là, à Livourne, donc Bordiga avec sa fraction, avec les autres fractions, celles de Gramsci et d'autres, viennent dans l'esprit, évidemment, cette fois-ci, d'en découdre. Donc ils proposent leur motion abstentionniste. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que même Bordiga avait proposé d'enlever son abstentionnisme pour avoir une scission. Ce qu'il voulait, en fait, Bordiga, c'est l'expulsion des chefs réformistes qui s'étaient manifestés pour l'Union sacrée dans le parti. Voilà. Donc il va proposer qu'on expulse les réformistes, et ses motions vont être refusées, repoussées, et donc, eh bien logiquement, il va partir du congrès, hein. Le congrès s'était tenu au Teatro Goldini, à Livourne, il va sortir avec tous ceux qui le suivent, et ils vont aller dans un autre théâtre, le Théâtre San Marco, qui était d'ailleurs en très mauvais état. On dit que les congressistes avaient des parapluies parce que la pluie tombait à travers le toit qui était pas en très bon état. Voilà, le théâtre San Marco qui a été d'ailleurs détruit par l'aviation américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là va se tenir le congrès de fondation du Parti communiste d'Italie. Voilà, à Livourne, donc en janvier. Donc le congrès du parti de cofondation du Parti communiste. Ce Parti communiste se fonde donc très très tard, puisqu'en 1921, les grandes vagues de grèves en Italie sont déjà passées, on y reviendra. 1920 voit l'apogée des grèves des métallurgistes surtout en Italie, surtout à Turin. J'en dirai un petit peu dans quelques instants. Et donc ce Parti communiste se fonde. Bordiga en est évidemment le fondateur, avec quelques-uns de ses amis. Très vite se fonde donc ce qu'on appelle un comité exécutif, 5 personnes, hein, donc Bordiga et Grieco, qui était un de ses amis très proche de Naples, Terracini, qui était un ami de Gramsci, qui s'était converti au bordiguisme, si on peut parler de bordiguisme déjà à l'époque, et puis Repossi et Fortichiari, qui eux venaient de Milan. Voilà. Donc on avait dans le comité exécutif donc ces 5 personnes qui venaient évidemment des 3 grandes métropoles ouvrières de l'Italie. Gramsci n'y figure pas, hein, Gramsci n'y figure pas, il n'est pas dans le comité exécutif. Gramsci qui a assisté, disons, au congrès. Et donc tout de suite quelques petites anecdotes à ce propos. Après la Deuxième Guerre mondiale, Togliatti n'aura de cesse évidemment d'essayer de faire disparaître jusqu'à la mémoire de Bordiga. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, encore, mais dans les années 30, donc Bordiga était un véritable mythe vivant dans toute l'Italie, dans la classe ouvrière italienne. Il était évidemment connu et chéri de beaucoup d'ouvriers, de nombreux ouvriers révolutionnaires, et surtout respecté. Togliatti, évidemment, qui, on y reviendra, sera passé évidemment du côté donc de Moscou. Et évidemment, avait peur de Bordiga. Il a essayé de le faire disparaître dans une conspiration du silence, puis après sous les calomnies. On verra que, Togliatti a écrit un livre en 1960 qui s'appelle L'histoire du Parti communiste d'Italien, où il va quand même oser donc écrire à peu près 150 pages, où le nom de Bordiga n'est pas prononcé, enfin n'est pas écrit. Le nom de Bordiga n'est pas écrit. On parle d'une direction, sectaire, une direction extrémiste, une direction, etc. Le nom de Bordiga n'est pas prononcé, et évidemment, Gramsci est présenté comme le fondateur du Parti communiste d'Italie, mais on le voit encore souvent, hein, on nous parle de Gramsci comme le fondateur du Parti communiste d'Italie. Bon, Gramsci avait peut-être de grands mérites, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le fondateur du Parti communiste d'Italie, il n'en fait même pas partie, il fait même pas partie du centre dirigeant. Il a été à sa création, voilà, hein, il a fait partie effectivement des gens qui ont créé le parti, mais il n'est pas le fondateur du parti, loin de là, et puisque je vous le dis, il ne fait même pas partie du comité exécutif. Le Parti communiste aussi d'Italie, c'est important, s'appelle Parti communiste d'Italie. Voilà. En 1926, après la victoire de Gramsci Togliatti, il s'appellera Parti communiste italien. Voilà. Alors ce n'est pas du tout un hasard, hein, les mots ont leur importance. D'Italie, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, ça voulait dire que pour Bordiga, le Parti communiste était une section de l'Internationale communiste. Voilà, une section régionale, une région locale, une région nationale, une section nationale, la section d'Italie. Voilà. Alors que pour Gramsci Togliatti, évidemment, quand on va parler maintenant de Parti communiste italien, on devient un Parti communiste évidemment plus nationaliste, plus national. Voyez, hein, donc c'est voilà. On va dire aussi que Bordiga était le secrétaire général du parti. Non, il n'y avait pas de secrétaire général du parti. C'est une charge qui a été inventée pour copier les partis bolcheviques. Elle a été inventée en 1926, justement, et pas Gramsci lui-même. C'était tout simplement un comité exécutif. Voilà. Donc voilà, ce parti communiste est créé. Bordiga va tout de suite y développer donc un travail encore une fois intense. Hein, bon, d'après Gramsci lui-même et d'après d'autres témoignages, bon, en fait, il n'a pas dormi à peu près pendant une semaine ou deux. Hein, il dormait une ou deux nuits par jour à rédiger des proclamations, etc. Alors, en 1920, j'y reviens un petit peu. En 1920, donc, sont tenues les grandes grèves, à Turin, à Naples, et donc il va y avoir une polémique très importante avec Gramsci. Donc, la polémique, ça va être sur la polémique de la prise du pouvoir. Gramsci, je reviens à son Ordine Nuovo. Gramsci, lui, était ce qu'on appelait un conseilliste. Hein, il avait une vision de la révolution centrée sur l'usine. Voilà, les prolétaires, les ouvriers devaient s'emparer de l'usine, ce qu'on pourrait appeler après mai 68, faut pas faire d'anachronisme, mais c'est à peu près ça, l'autogestion. Hein, les ouvriers doivent s'emparer des usines, doivent les remettre en route, etc. Et c'est comme ça que va donc se faire la révolution par les conseils ouvriers, par les soviets. Voilà. Bordiga, lui, est tout à fait opposé à cette vision. Il pense que les soviets sont importants, mais le plus important, c'est l'État, prendre le pouvoir. Voilà, prendre le pouvoir, détruire l'État. Et donc, il va écrire un célèbre article qui s'appelle « Prendre l'usine ou prendre l'État ». Voilà. Et donc, il y a tout chez Bordiga, sauf une vision centrée sur l'entreprise, sur l'usine. Il dira plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, le monstre à vaincre, hein, ce n'est pas le patron, qui, bon, pour Bordiga, pas grande importance. Le monstre à vaincre, c'est l'entreprise. Voilà, l'entreprise en tant qu'unité sociale. Voilà. Donc voilà, ce parti communiste donc est formé donc à Livourne. Lors de la même année 1921, au troisième congrès du parti de l'Internationale communiste. Troisième congrès de l'Internationale communiste, Bordiga n'y participe pas. Il a envoyé Terracini, qui se fait à nouveau éreinter par Lénine. Hein, et à nouveau, donc les thèses de la gauche sont battues. Voilà. En 1921, toujours à l'été 1921, il va y avoir quand même quelque chose de très important, puisque le Parti Socialiste d'Italie, avec lequel le Parti Communiste avait fait scission, va passer un accord de pacification avec le Parti Fasciste, qui est récemment conclu. On était un État en 1921, donc de quasi-guerre civile en Italie, entre les fascistes qui s'étaient armés, et les socialistes et le Parti Communiste. Voilà. Le Parti Socialiste va créer un pacte, ce qu'on appelle le pacte de pacification, avec les fascistes, voilà. Donc évidemment, Bordiga, la tête du Parti communiste, va s'élever contre ça, et pour lui, ça va être la énième trahison du Parti socialiste, hein, qui collabore maintenant carrément avec le fascisme. C'est une petite anecdote, mais elle est importante parce que dans l'historiographie socialiste et même donc communiste officielle, on va souvent accuser Bordiga à cause de sa politique de refus de l'antifascisme. On va accuser Bordiga d'avoir favorisé le fascisme. Ce qui est quand même évidemment paradoxal, dans la mesure où Bordiga s'est toujours battu les armes à la main contre le fascisme en Italie, hein, puisque dès la formation du Parti communiste d'Italie, s'est formé un appareil donc secret, un appareil armé, hein, pour lutter par les armes contre le fascisme. Voilà. Alors que le Parti socialiste, lui, a pactisé, si vous voulez, avec le fasciste, s'est imaginé, donc il y avait possibilité de pactiser. Bon, évidemment, hein, le Parti fasciste... C'est pas du tout désarmé, hein, lui. Voilà, en 1922, donc, se tient le deuxième congrès du Parti communiste d'Italie à Rome. Voilà. Bordiga va présenter des thèses, qui vont être les fameuses thèses de Rome. Donc, thèses pour le Parti communiste d'Italie, où il va réaffirmer toutes ses positions. Refus de la démocratie, refus de l'alliance, toute alliance avec tous les partis bourgeois contre le fascisme. Hein, le parti communiste, le parti de la classe ouvrière doit mener son combat seul avec son programme, hein, et il n'a pas à s'allier surtout avec les forces bourgeoises contre lesquelles eh bien, en fait, on a à lutter autant contre le fascisme. Il faut dire que l'Italie a une grande tradition de dictature anti-ouvrière, hein, et bah, Bordiga dira tout simplement que ce n'est pas Napoléon III, hein, qui a écrasé la Commune de Paris. Ce n'est pas Napoléon III qui a massacré les ouvriers à Fourmis, hein, c'est bien la République française. Ce n'est pas Hitler qui a écrasé la révolution en Allemagne en 1919, c'est bien la social-démocratie allemande. Et en 1898, ce n'est pas Mussolini, hein, qui a canonné les ouvriers à Milan, hein, mais c'est bien la démocratie parlementaire de Crispi, etc., qui est d'ailleurs une démocratie de gauche. Hein, voilà, donc on n'a pas du tout à s'allier avec la gauche bourgeoise, hein, démocratique ou pas, contre le fascisme. Ce sera donc un de ses invariants. Voilà. Alors très vite, au contraire, les bolcheviks vont essayer de s'allier avec cette social-démocratie, vont essayer de faire donc ce qu'on a appelé la politique de front unique, s'allier donc avec les partis social-démocrates. Évidemment, il est assez facile à dire à Bordiga qu'on a lutté pendant 2 ans pour se séparer des socialistes, ce n'est pas évidemment maintenant pour leur proposer une alliance. Et donc il va y avoir incompréhension et heurt total avec là aussi avec les bolcheviks. Voilà, donc en 1922, eh bien, après le congrès de l'été, le quatrième congrès de l'international communiste, qui va voir aussi, encore une fois, le heurt avec Lénine, la défaite de la gauche. Là, Bordiga y participe, il fait un rapport sur le fascisme. Il dit que le fascisme n'est pas du tout un gouvernement arriéré, féodal, comme le prétendait par exemple Gramsci. Il dit au contraire, c'est un gouvernement très très moderne. On n'a pas non plus absolument à lutter contre le fascisme avec les bourgeois. Le fascisme, bah, une de ses premières positions, c'est d'être contre la démocratie. Bah, il dit, bah, nous aussi. Nous aussi, on est contre la démocratie. Donc, si on reproche quelque chose au fascisme, c'est pas d'être contre la démocratie, parce que nous aussi, on l'est. Le fascisme parle de dissoudre l'Assemblée nationale. Ben, il dit, ben, de toute façon, nous, c'est ce qu'on fera aussi. Hein? Donc, on va pas lui reprocher ça. Ce qu'on va lui reprocher après, évidemment, c'est de faire fonctionner le capitalisme. Mais on n'a pas à s'attaquer au fascisme sur le plan de la démocratie. On n'a surtout pas à lui reprocher d'être antidémocratique. Donc, après ce heurt au quatrième congrès, en août, grande grève générale en Italie contre le fascisme, qui va être un échec total, en grande partie à cause du sabotage du Parti Socialiste. Et en octobre, c'est la marche sur Rome. Hein, donc en octobre, c'est la marche sur Rome, qui, soi-disant, marche sur Rome, parce qu'en fait, comme Bordiga le dira souvent, elle s'est fait en train. Hein, Mussolini était en train. Voilà. Puis à chaque station, à chaque gare, il descendait, il faisait un petit discours, etc. Voilà. Puis il remontait dans le train de première classe, et puis il allait vers Rome. Donc cette soi-disant marche sur Rome, en fait, c'était une farce, hein, pour Bordiga. Et une farce à la fin de laquelle, bon, le roi a demandé à Mussolini donc de former un nouveau gouvernement d'ailleurs auquel, on l'oublie souvent, ont participé la plupart des partis libéraux. Alors pas le Parti Socialiste, mais la plupart des partis libéraux ont participé donc au premier gouvernement de Mussolini, qui était un gouvernement tout à fait légal. Hein. Voilà. Donc 1923. Alors 1923, le fascisme donc s'installe. Bordiga est arrêté. Donc il était arrêté sur, il a été arrêté dans la rue par la police secrète. Il avait beaucoup d'argent sur lui, des livres sterling, et il a été arrêté pour ça. En fait, on l'a accusé d'être manipulé par des puissances étrangères, l'International communiste pour pas la nommer, qui lui aurait donné de l'argent pour le parti communiste d'Italie. Ce qui d'ailleurs était vrai, hein, c'était de l'argent, donc il venait de recevoir d'un émissaire russe. Donc on lui a reproché d'être à la tête d'une conspiration contre l'État. Bon, la justice a fini par le libérer parce que bon, aucune charge n'avait pu être retenue vraiment contre lui, ce qui prouve entre parenthèses que la dictature de Mussolini n'était pas déjà vraiment très bien ancrée, puisque la justice donc l'a libéré. En l'arrêtant, eh bien, Mussolini a rendu un service. Alors, est-ce que c'était voulu ou pas? Bon, je ne trancherai pas. Il a rendu un service, évidemment, à Lénine, aux bolcheviques, qui, depuis 1921, donc depuis cette scission de Livourne, était en désaccord avec Bordiga. Pour Lénine et les bolcheviques, la scission de Livourne avait été faite trop à gauche. Voilà, c'est-à-dire que Lénine, hein, et les bolcheviques voulaient en fait que le Parti communiste soit plus large. Pour Lénine, il y avait eu trop de gens qui étaient laissés à la porte du Parti socialiste. Voilà, donc Lénine aurait voulu un groupe plus, un parti plus puissant. Et Bordiga, au contraire, lui, était pour, évidemment, encore une fois, des critères extrêmement stricts. Hein. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que pendant que Bordiga va être arrêté, les bolcheviques vont en profiter. Mais en 1923, donc, Lénine avait eu son attaque. Il était plus, il avait lui aussi déjà une attaque cérébrale. Donc, c'est surtout les Zinoviev, Boukharine, Trotsky, qui vont remplacer Bordiga par une autre direction. Voilà, une autre direction qui va être plus souple et qui va être plus favorable aux bolcheviques. Et cette direction, ça va être Gramsci, ça va être Togliatti et quelques autres camarades. Voilà. Les quelques autres camarades en question vont essayer de maintenir les positions de Bordiga pendant un certain temps, et puis sous l'influence de Gramsci, ils vont finir par abandonner donc Bordiga. Et quand Bordiga va sortir en 1923 de prison, il refuse de reprendre la tête du parti qui, selon lui, est dénaturé, et donc il se retrouve à l'extérieur de la direction du parti. Voilà. Et donc là, évidemment, très vite, ça va de plus en plus dégénérer entre Gramsci, Togliatti, la nouvelle direction, et Bordiga et son groupe. Alors, il faut quand même dire qu'une nouvelle direction a été nommée, donc c'est la direction Gramsci et Togliatti, mais à la base, le parti reste à peu près à 90% favorable aux thèses de la gauche, c'est-à-dire reste favorable à Bordiga. Donc c'est en fait une direction qui dirige rien, hein, parce que tout le parti lui est défavorable et va lui rester longtemps. Alors en 1924, c'est le 5e congrès de l'Internationale communiste. Donc là, c'est la dernière offensive des bolcheviks et c'est la défaite définitive du parti, enfin de la gauche du parti, donc de la direction de Bordiga, et qui vont être démis définitivement par l'Internationale communiste. Ils vont être démis de leurs fonctions, tous. Et donc le parti est décapité en 1924. Donc toutes les thèses de Bordiga vont être refusées. Les bolcheviks vont l'accuser de façon calomniatrice, de révisionnisme, d'opportunisme, d'anarchisme, etc. Tout ça étant évidemment totalement faux. Zinoviev va offrir la direction de l'Internationale communiste à Bordiga, ben, pour désamorcer ses critiques. Principalement, Bordiga refuse. Et voilà, donc c'est une grave défaite. Toujours en 1924, Matteotti est assassiné. Il est assassiné d'ailleurs, je crois, pendant le congrès, même pendant le 5e congrès. Matteotti est assassiné. Donc Matteotti, c'était un député socialiste qui s'était signalé dans la Chambre des députés par des discours violemment hostiles à Mussolini. Bon, on l'a retrouvé mort un jour. Et manifestement, évidemment, assassiné par commandité, l'assassinat étant évidemment certainement commandité par Mussolini. Donc ça va être une grande crise pour le fascisme, hein, des grèves, etc. Et donc va se former un bloc bourgeois, de partis bourgeois anti-fascistes, anti-mussoliniens. Voilà. Et la nouvelle direction, donc la direction de Gramsci, de Togliatti, va s'allier donc à ce bloc. Évidemment, là, Bordiga va totalement s'opposer à cette politique, et lui, il était pour rester, pour développer toujours une opposition, certes, mais une opposition sur ses bases propres, et surtout ne pas s'allier au gouvernement, enfin au parti, pardon, bourgeois. Ça va d'autant plus être difficile que pendant que les manifestants, hein, manifestaient donc contre le fascisme. Le gouvernement russe, en octobre, va faire donc une grande fête à l'ambassade de Russie, à Rome, et va inviter donc de façon très cérémonieuse et en grande pompe Mussolini donc pour les fêtes de l'anniversaire de la révolution d'octobre. Pendant qu'en même temps également Moscou signait un accord, reconnaissait le parti fasciste, reconnaissait le gouvernement fasciste et signait un accord économique avec l'Italie. Donc évidemment, les communistes italiens se retrouvaient évidemment en porte-à-faux, hein, manifestant contre Mussolini, pendant que Mussolini était reçu avec des petits fours à l'ambassade d'Italie. En 1924, Lénine meurt. Hein, bon, il n'était plus actif depuis longtemps. Lénine meurt et Bordiga va écrire et va surtout réciter, ça on l'oublie souvent, il a écrit un texte donc, très très important qui s'appelle Lénine sur le chemin de la révolution. Hein? Lénine sous le camion de la Révolution, et qu'il va écrire, mais qu'il va surtout lire. Et on a du mal à se rendre compte, évidemment, maintenant, hein, il va lire dans une assemblée, hein, il va s'en lire dans une assemblée, dans un, justement, un théâtre, etc., ce texte, hein, où il va faire, évidemment, l'éloge de Lénine, hein, une éloge assez critique, où il va dire sur quel plan il n'était pas d'accord, mais il va donc reparler, réaffirmer donc ses positions. Lénine donc est le restaurateur de la théorie, etc. Et surtout évidemment celui qui a dirigé la première révolution prolétarienne mondiale, et surtout victorieuse. Voilà, en 1925, donc toujours détérioration entre Bordiga et la direction du parti. En 1924, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, je fais un petit retour en arrière. En 1924, réunion secrète à Côme, en Italie. Réunion secrète au cours de laquelle la direction mise en place par les bolcheviks, Gramsci Togliatti, va se trouver désavouée. Hein. On va s'apercevoir que la base est encore favorable à plus de 80% à Bordiga. Donc c'est une grave défaite pour Gramsci, pour Togliatti, pour les bolcheviks. Et voilà. En 1925, Bordiga écrit un petit article qui s'appelle La question Trotsky. Dans cet article, il prend la défense de Trotsky. Et vous savez, donc, en 1925, il y a un grand débat, évidemment, dans le parti communiste russe. Bon, je n'en ai pas parlé pour l'instant. Dans le parti communiste russe, évidemment, un grand débat pour la succession, évidemment, de Lénine. Hein, voilà. Et donc, le grand débat entre Trotsky, Zinoviev, Kamenev d'un côté et Trotsky de l'autre. Bon, Trotsky est persécuté, etc. Bordiga va prendre position pour Trotsky tout en reconnaissant qu'il n'est pas toujours d'accord avec lui, notamment sur l'appréciation des deuxième et troisième congrès. Mais il le défend contre Staline et contre ce qu'on appelait la Troïka, hein, les trois, Staline, Zinoviev et Kamenev. Voilà. Alors que Trotsky, entre parenthèses, avait été donc un ennemi acharné de Bordiga dans les congrès. Hein. Voilà. Donc en 1925, Bordiga écrit un article qui s'appelle « Le danger d'opportunisme et l'international ». Donc il dit que là, on est sur une mauvaise pente et que l'international est en train de sombrer dans une mauvaise voie, la voie de ce qu'il appelait l'opportunisme, hein, à l'époque. On appelait ça comme ça. En 1926, alors en janvier 1926, dernier congrès du Parti communiste auquel participe Bordiga, c'est le congrès de Lyon. Le Parti communiste avait été interdit, hein, par Mussolini, donc il se tient totalement illégalement à Lyon. Voilà. Et là, ça va donc être la dernière participation donc de Bordiga à un congrès. Il va parler pendant 6 heures. Hein, alors, faut s'imaginer ce que c'est qu'un discours pendant 6 heures. Hein, 6 heures sans s'arrêter. Je vous l'avais dit, donc c'était un rhéteur hors pair, hein, une force de travail. Il va parler pendant 6 heures. Il va exposer toutes ses thèses, pourquoi il n'est pas d'accord, etc. Donc le refus toujours pareil du front unique, de la démocratie, le refus de l'alliance avec les bourgeois, le refus de l'antifascisme, le refus de l'alliance avec les socialistes, etc. Il dit les stupides de s'allier aux forces démocratiques, hein, bon, qui ont été les bourreaux du prolétariat, notamment en Allemagne. Voilà. Il va donc être battu, et donc les votes vont donner, pour cette fois-ci, enfin, les votes vont donner une large majorité à Gramsci et à Togliatti pour la première fois. Il faut dire quand même que le vote a été entièrement truqué par justement la majorité, puisque tous ceux qui ne votaient pas, hein, tous ceux qui ne votaient pas, eh bien leur vote était compté comme étant favorable à la majorité. Donc évidemment, c'était plus facile comme ça. Hein. Mais bon, Bordiga donc est désavoué, donc officiellement, donc voilà. Il assiste en février, donc juste après, hein, il assiste au sixième plénum de l'exécutif élargi de l'international communiste. Alors l'exécutif élargi de l'international communiste, bah, c'est la direction du Parti communiste. Hein, c'était donc des réunions qui se tenaient entre les grands congrès. Voilà. Alors à ce dernier, il va à Moscou. Il va à Moscou, mais il prend des risques d'ailleurs. Il va à Moscou, et à Moscou donc a lieu cet exécutif élargi. Et là, il va rencontrer Staline, il va rencontrer d'abord, excusez-moi, Trotsky, de façon privée, parce que Trotsky n'avait plus le droit de participer à l'exécutif élargi. Il va rencontrer Trotsky, il va avoir de longues discussions avec lui, dont on ne sait pas tellement exactement ce qui s'est dit. Il va participer donc ensuite à l'exécutif élargi, là il va se heurter à Staline. C'est un des derniers, je pense, qui a osé donc dans une assise internationale se heurter avec Staline. Il va donc demander à Staline notamment s'il avait toujours été d'accord tout le temps avec Lénine dans toutes ses positions. Vous savez que une des accusations donc de Staline contre Trotsky, on l'avait accusé de ne pas toujours avoir été d'accord avec Lénine et que Lénine l'avait critiqué. Donc Bordiga va lui dire, camarade Staline, est-ce que vous avez toujours été d'accord avec Lénine? Évidemment, il savait que non. Hein. Staline avait souvent été en désaccord avec Lénine. Et voilà. Et Staline a eu d'ailleurs cette réponse remarquable. Il lui a dit, Dieu vous pardonne de m'avoir posé cette question. Voilà. Voilà. Donc c'est la dernière participation de Bordiga, donc un grand congrès international. Enfin, c'était pas un congrès, mais disons qu'une grande réunion internationale. Il rentre en Italie. Et là, Bordiga donc va refuser de créer une fraction. Beaucoup de ses amis italiens, des amis allemands, lui proposent de créer une fraction donc dans le Parti communiste, et une fraction même internationale dans l'international communiste. Et là, Bordiga va avoir une position qui pourrait paraître paradoxale, il refuse. Hein. Bordiga refuse de créer une fraction, il refuse de démissionner du parti, et pour lui, il va s'exprimer ainsi, il faut laisser aller la politique stalinienne, bon, stalinienne c'est entre guillemets, hein, c'est pour personnaliser, Bordiga avait horreur des personnalisations. Donc il faut laisser aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout ça va être l'exclusion en 1930. Donc il a refusé, si vous voulez, de créer une fraction, il a refusé même de démissionner, ce qu'il aurait pu faire. Non, il a laissé la discipline se aller jusqu'au bout. Et voilà. Et pourtant, on lui avait proposé de créer une fraction, etc. Il refuse. Alors, il refuse pourquoi? Parce que, à son avis, c'est inutile et on est dans une mauvaise phase. Une phase de contre-révolutionnaire, dans laquelle, malheureusement, il n'y a plus grand chose à faire pour intervenir. Et bon, il s'est souvent après critiqué Trotsky, qui Trotsky après dans les années 30 s'est beaucoup activé pour former une organisation, pour former des fractions, etc. Tout cela en vain. Bon, pour Bordiga, c'était un travail en pure perte, hein, une perte d'énergie. Pour Bordiga, malheureusement, après 1930, il n'y avait plus grand chose à faire. Selon lui, la Seconde Guerre mondiale arrivait. Elle arrivait à grands pas, il l'avait prévu, hein, dès 1930. Et malheureusement pour lui, c'était impossible de l'empêcher. Le prolétariat avait été totalement vaincu, c'était une défaite énorme. La Russie était passée, disons, dans le camp de la contre-révolution. Et donc, il fallait laisser faire. Hein. La révolution avait échoué, la guerre allait arriver. Et il fallait attendre la fin de la guerre et espérer en un autre... la reprise d'un autre cycle, un autre cycle historique, autre cycle révolutionnaire. Et donc en 1930, le parti italien, la direction, veut l'envoyer à Moscou. Elle veut l'envoyer à Moscou avec sa femme, soi-disant pour le protéger de Mussolini. Mussolini qui connaissait bien évidemment Bordiga, puisque c'était évidemment deux grands amis dans le parti socialiste avant la guerre de 14. Bordiga, curieusement, semble accepter d'aller à Moscou, de partir à Moscou. Et en fait, il a été arrêté avant par Mussolini. Et là, Mussolini lui a peut-être sauvé la vie, parce que s'il était parti à Moscou, il aurait eu une grande chance donc d'être déporté en Sibérie et de disparaître comme ça, sans savoir exactement ce qu'il était devenu. Donc il est arrêté par Mussolini, il est déporté. Il est déporté dans les îles, hein, comme en France. La France a son île d'Aix, son île... les Anglais en Sainte-Hélène. Hein. Bon ben, les Italiens ont l'île d'Ustica. Hein. Ils avaient eu l'île d'Elbe pour Napoléon. Là, il a été donc déporté à Ustica avec d'autres communistes italiens. Et il a formé une petite académie là-bas entre communistes. Il donnait des cours, hein, des cours. Alors lui était chargé des cours d'astrophysique. Hein, il était passionné par l'astronomie, par l'astrophysique. Il donnait des cours d'astrophysique. Gramsci donnait des cours de philosophie. Et bon. Et à l'intérieur donc des déportés communistes, il y avait des débats. En fait, tous les débats qu'il y avait dans le Parti communiste se sont retrouvés dans ce camp de déportés, dans cette île de déportés. On a la même chose en Sibérie à la même époque. Hein. En Sibérie, bon, parmi les déportés, bon, ben, la vie du parti continuait. Voilà. Alors, il va en profiter pour donc étudier l'astrophysique. Il va être ensuite déporté dans une autre île, bon, l'île de Ponza, qui est pas très loin. Et là, il va continuer ses études. Il va reprendre ses études économiques, puisque pour lui, donc fondamentalement, je vous l'ai dit, il ne sert plus à rien de faire grand-chose. On est battu. Faut l'accepter et faut étudier. Voilà, faut étudier pour préparer la reprise révolutionnaire prochaine. Donc, il va se mettre à faire de grandes études économiques, notamment le Capital de Marx, qui va éplucher. Il va écrire des livres sur les éléments d'économie marxiste, qu'il publiera après la Deuxième Guerre mondiale. En 1929, il est libéré. Il est libéré et il est renvoyé à Naples. Et à Naples, il va reprendre son travail. Il était ingénieur. Hein, il était ingénieur et donc il va ingénieur dans la construction publique. Hein, donc il va reprendre son métier d'ingénieur. Voilà. Et voilà, je vous lis une petite phrase. Hein, donc il y a Trotsky avait rencontré Leonetti. Leonetti, c'est un trotskiste italien. Et Trotsky avait demandé à Leonetti, mais pourquoi Bordiga ne se manifeste plus? C'était en 1930. Pourquoi on n'entend plus parler de Bordiga, etc. Et Leonetti lui avait répondu, Bordiga pense que tout est pourri, qu'il faut attendre la création de nouvelles situations, pour recommencer. Voilà, je pense que c'est vraiment sa perspective. Voilà. Donc en 1930, je vous le dis, il est exclu. Voilà. Alors après son expulsion, il rentre dans la vie privée. Il arrête toute activité politique. Il va y avoir toute une fraction à l'étranger. Quand je dis l'étranger, c'est surtout la France et la Belgique. Il va y avoir une formidable immigration, évidemment, de révolutionnaires qui vont fuir l'Italie, fuir Mussolini, qui vont se réfugier en Belgique ou en France. Voilà, qui vont former une fraction d'abord du Parti communiste d'Italie, puis après une fraction autonome quand ils vont être exclus du Parti communiste d'Italie. Et cette fraction, donc une fraction bordiguiste, qui va faire des congrès elle-même, qui va avoir des publications, etc. La publication la plus importante étant Bilan. Une publication en langue française, donc Bilan. Pourquoi Bilan? Bilan parce qu'il faut faire le bilan de la défaite. C'était la position de Bordiga. Mais Bordiga ne va avoir aucun contact avec ces gens-là. Pratiquement aucun. Il va rester en Italie. Il refuse de partir d'Italie. Il a moins peur de Mussolini, manifestement, que des sicaires de Moscou à l'extérieur. Voilà. Il se sent plus en sécurité en Italie qu'en France. Donc il refuse de s'exiler. Il reste en Italie. Et puis voilà. Il a refusé donc de toute activité politique. Quand, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il refuse toute résistance, donc sa position est toujours la même, refus de la résistance, qui sera souvent objet d'un scandale pour les militants, même dans son propre parti, on le verra après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une incompréhension totale. Pourquoi Bordiga n'a pas participé à la résistance? Il ne voulait pas. Pour lui, la résistance, c'était donc participer à la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Deuxième Guerre mondiale, il ne fallait pas y participer. C'était une guerre impérialiste, comme la première, avec l'impérialisme anglo-saxon d'un côté, l'impérialisme allemand de l'autre, l'impérialisme allemand-italien. Et on n'avait pas à choisir, on n'avait pas à participer à cette guerre, et donc même à la résistance. Monsieur Texier... Voilà. Donc, et même dans des conversations privées, bon, Bordiga dans les années 1936-1937, elle dit qu'il était très très content, ça l'amusait beaucoup, la façon dont Mussolini avait humilié ce qu'il appelait les plutocraties occidentales, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Donc, ça l'amusait beaucoup. Et pour lui, il faut savoir que pour Bordiga, les Anglo-Saxons, alors quand je dis anglo-saxons, c'est principalement l'Amérique et l'Angleterre, étaient les ennemis numéro un de la Révolution. C'était les deux premières puissances capitalistes mondiales, donc c'était eux les ennemis numéro un. Et donc évidemment, ils se réjouissaient de toute défaite donc de ces pays, et ils disaient qu'une des grandes catastrophes du mouvement révolutionnaire, c'était que l'Angleterre n'avait jamais été envahie. Et il disait, refaisant l'histoire, que si Napoléon avait réussi à franchir la Manche et à envahir l'Angleterre dans les années 1810, la face du monde aurait peut-être changé. Donc pour lui, une des grandes catastrophes, c'était que l'Angleterre et l'Amérique n'aient jamais été vaincues dans les grandes guerres auxquelles elles ont participé. Voilà. Donc pour lui, cette guerre est une guerre impérialiste, ce n'est pas une guerre idéologique, c'est pas la guerre de la démocratie contre le fascisme, pour lui tout ça c'était de la blague, c'était une guerre entre impérialistes tout simplement pour des marchés, pour écraser des concurrents. Voilà. L'Allemagne devenait un concurrent donc évidemment très important, les Américains et les Anglais ne pouvaient pas le supporter, et donc d'où évidemment les frictions, les heurts, et d'où la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc après 1945, une toute autre époque évidemment va commencer. Donc c'est la deuxième partie de mon petit exposé, il est déjà 8h. Donc après 1945, une toute autre période commence. C'est la période, non pas de la clandestinité, le parti qu'il va fonder, quand je dis qu'il va fonder, on va voir, n'est pas clandestin, mais évidemment c'est un parti ridicule. Le parti communiste d'Italie, à la tête duquel il a été je ne veux pas dire de sottise, mais je crois qu'il y a eu 60 000 membres dans les années 1920. Donc c'était quand même quelque chose d'énorme. Il va se retrouver, Bordiga, après 1945, à la tête d'un parti où il y a quelques centaines de personnes. Donc évidemment, c'est tout à fait différent. Donc une autre période commence, la période de l'anonymat. Autre période dans laquelle la réflexion de Bordiga va être paradoxalement plus riche, à mon avis. Bon, ça, je me permets de dire quelques... d'appréciation personnelle, plus riche, plus original, même si ce n'est plus une personne publique. Donc ça, je vous avais parlé de la façon dont, évidemment, le Parti communiste italien, donc maintenant, on va tout faire pour essayer de faire disparaître Bordiga. Togliatti avait peur à la libération. Il avait dit, mais que va faire Bordiga? En fait, il avait peur que Bordiga se manifeste. Bordiga, je vous dis, était encore admiré et connu par évidemment des centaines de milliers d'ouvriers. En fait, Bordiga s'est pas manifesté du tout. Il a eu peur pour rien. Bordiga s'est pas manifesté du tout. La position de Bordiga fondamentale en 1945, c'est il n'y aura pas de révolution à la suite de la fin de la guerre. Alors tous les révolutionnaires, même de son propre parti, on va le voir, tous les révolutionnaires pensaient qu'en 1945, on allait avoir la même chose qu'on a eu en 1918. C'est-à-dire qu'il y allait avoir des révolutions. Tout du moins de grands mouvements révolutionnaires. Bordiga va dire non, il n'y aura pas de mouvement révolutionnaire après 1945. Pourquoi ? Parce que le prolétariat est battu, le prolétariat a accepté l'union sacrée, il a accepté de se battre pour les démocraties, il a accepté de se battre pour les Russes, pour les Allemands, pour les Américains, pour les Anglais, pour les Français. Il a été donc battu, il a été écrasé. 22 millions de morts, c'est quand même pas mal. Donc 22 millions de personnes sont mortes pendant cette deuxième guerre mondiale. Donc le prolétariat était saigné à blanc. Mais surtout, il a perdu son programme dans la mesure où il a accepté de se rallier à la démocratie et de défendre la démocratie. Et donc voilà. Donc Bordiga ne croit pas du tout au surgissement de mouvements révolutionnaires. Au contraire de ses amis proches, qui vont fonder en 1943. Donc là, c'est la date importante. En 1943, à la suite donc de grandes grèves à Turin, des militants donc bordiguistes, Maffi et Damen notamment, pour ne pas les citer, Damen et Maffi vont fonder dans le Nord, donc à Turin et Milan, ils vont fonder le Parti communiste internationaliste, le Parti communiste internationaliste, en 1943, avec la perspective justement de mouvements révolutionnaires. Alors Bordiga, lui, il est dans le sud. Il est resté donc à Naples. Pour l'instant, donc, il est très isolé, puisqu'une partie de l'Italie est libérée, entre guillemets, par les Américains et les Français, les Anglais. L'autre partie étant toujours occupée par l'Allemagne. Vous savez que quand Badoglio donc a signé l'armistice avec les Américains, les Allemands ont envahi l'Allemagne, la partie de l'Allemagne qu'ils pouvaient envahir, c'est-à-dire tout le Nord. Donc tout le Nord était encore occupé par les Allemands. Voilà. Donc, pendant que Bordiga est à Naples, ses amis donc fondent le Parti communiste internationaliste en 1943. Voilà. Bordiga ne va pas assister au congrès de fondation, il ne va même pas s'inscrire au parti. Il va collaborer de loin à la presse. Et en fait, il n'est même pas inscrit. En fait, lui, il n'est pas d'accord. Il ne voyait pas l'intérêt de fonder ce parti, puisque pour lui, il n'y avait pas de cycle révolutionnaire vraiment qui s'ouvrait. Donc, il va, disons, je dirais, tolérer ce parti. Il va tolérer ce parti au début. Bon, après, il va le prendre en main, on va voir comment. Mais bon, voilà, il accepte ce parti. Alors, il va très vite essayer d'utiliser ce parti pour faire œuvre théorique. Voilà. Alors, quelle est la position fondamentale de Bordiga en 1945 ? C'est la préparation d'un nouveau cycle révolutionnaire, mais lointain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Reformer la théorie. Voilà, reformer la théorie qui a été dénaturée par l'antifascisme principalement. Donc il faut restaurer la théorie. Voilà, la théorie doit être restaurée. Donc il faut former des cadres, former des jeunes qui vont pouvoir donc assimiler cette théorie dans le but du prochain heure révolutionnaire. Voilà. Donc restauration de la théorie qui a été totalement chamboulée, annihilée, édulcorée. Restauration de la doctrine. Formation des cadres, création d'une équipe de travail. Alors évidemment, les problèmes théoriques sont énormes, notamment l'explication de l'énigme russe. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie ? On y reviendra. Alors, lutter contre les nouveaux révisionnismes, qui vont Staline, etc., mais pas seulement. On verra qu'à gauche aussi, bon, il n'était pas d'accord avec tous les gens, tous les anti-staliniens, loin de là. Donc, lutte contre les nouveaux révisionnismes, montrer comment, encore une fois, la doctrine de Marx est invariante, et elle n'a pas besoin d'être mise à jour pour expliquer la totalité du monde moderne. Il va essayer de montrer comment la doctrine est très efficace pour pouvoir expliquer le monde moderne. Pas besoin d'une mise à jour La doctrine est invariante. Voilà. Alors, son but aussi, ça va être d'étudier l'économie mondiale. Parce que quel est le but du parti? Le but du parti, c'est de prévoir, c'est de diriger la révolution. On verra tout à l'heure exactement ce qu'il entend par parti. C'est diriger la révolution. Mais pour diriger la révolution, il faut prévoir. Voilà. C'est une fonction principale du parti, la prévision. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour Bordiga, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la théorie va être antérieure à l'action. Pour Bordiga, fondamentalement, les hommes ont toujours fait, ils ont agi, et ensuite ils ont essayé de réfléchir à ce qu'ils avaient fait. Et quand ils ont voulu prévoir quelque chose, ça n'a jamais été le cas, évidemment, ça a été toujours, il s'est toujours réalisé bien autre chose que ce qu'ils avaient prévu. L'action est toujours première par rapport à l'action. Pour la première fois dans le parti, pour la première fois, il y a ce qu'il appelle le renversement de la praxis. C'est-à-dire que pour la première fois, le parti, parce qu'il concentre, il a une théorie qui explique la totalité de la société, la totalité de l'histoire, il synthétise grâce à sa doctrine, il synthétise tout le potentiel historique de Bordiga, tout le potentiel historique du prolétariat. Pour la première fois, le parti va prévoir. Voilà. Alors prévoir, c'est prévoir quoi? C'est prévoir la crise économique. Alors prévoir la crise économique, pour Bordiga, ben, c'est se remettre à l'étude de l'économie mondiale. De l'économie mondiale, grâce à quoi? Grâce à l'œuvre économique de Marx, grâce au capital. Et avant tout, étudier l'économie mondiale, mais avant tout étudier l'économie des USA. Alors il faut dire que pour Bordiga, donc je vous l'ai dit, les USA c'est l'ennemi numéro un. C'est là où le parti, c'est là où l'économie capitaliste est la plus puissante. Donc il va essayer d'étudier cette économie et il va montrer lors d'études économiques poussées, importantes, répétées, il va essayer de montrer que la crise va revenir. Elle est absolument inéluctable. La crise va revenir. Elle va revenir dans certaines années. Hein? Donc cette crise économique va revenir. Évidemment, elle est revenue. Hein? Elle est revenue maintenant. Hein? Elle est revenue depuis 1973. Mais évidemment, c'était pas une chose qui paraissait claire en 1945 et en 1949 même. On était rentré dans l'ère de la société. On allait rentrer dans l'ère de la société de consommation. Hein? Les crises semblaient éloignées. Il y avait 100 000 personnes en France au chômage à peu près. Hein? Bon, c'était évidemment dérisoire, les crises semblaient avoir été dépassées, ne plus jamais avoir eu lieu. Voilà, donc lui dit, la crise va revenir, elle est obligatoirement, on ne peut pas l'éviter, elle est absolument inévitable, et avec la crise va revenir le danger de la troisième guerre mondiale. Hein, puisque pour le Bordiga, pour la théorie marxiste, chaque crise, évidemment, est résolue par le capitalisme en déclenchant une guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a résolu la crise qui avait éclaté en 1929. Hein? Voilà. Donc, il va essayer de prévoir le retour de la crise. On va voir comment. Hein? Voilà, une de ses thèses aussi, c'est que les USA sont l'ennemi numéro un. Une thèse un petit peu paradoxale qui pouvait ne pas paraître là aussi à première vue, c'est que lors de la guerre froide, pour lui, les USA sont le pays belliciste hein, et que l'URSS est plutôt sur la défensive. L'URSS est plutôt sur la défensive. Il va parler de pacifisme de l'URSS hein, et de bellicisme au contraire de l'USA, des USA. Et donc, voilà. Hein. Donc, pas de révolution en vue. Donc, la crise reviendra, etc. Donc, cette prévision, il va la faire. Donc, on y reviendra. Donc, la théorie... un problème. Donc, la théorie, je reviens sur la théorie invariante. Donc le programme, donc c'est pratiquement le parti. Hein, le parti est le programme. Il arrive même certaines périodes où le parti peut être réduit à deux personnes, enfin trois personnes, voire même une personne. Hein. Pour Bordiga, le parti est presque intemporel. Hein, il parlera de parti historique. Là aussi encore, il est totalement antidémocratique. Hein, il dit qu'une personne peut avoir raison contre tout le monde. Notamment, il prend toujours l'exemple de Lénine qui en avril est arrivé, hein, en avril 1917. Lénine est rentré d'exil en avril 1917. Il a dit aux bolcheviks, donc ses amis qui étaient restés en Russie et qui avaient commencé à soutenir le gouvernement provisoire, russe qui s'était mis en place après la révolution de février. Il est rentré et il a dit donc à ses amis, il a exposé donc les fameuses thèses d'avril en disant il faut rompre avec ce gouvernement bourgeois, guerre immédiate au gouvernement bourgeois. Bon, ses amis l'ont pris pour un fou, hein, donc ont voulu le faire expulser du parti, etc. Et bon, évidemment, après c'est la ligne de Lénine qui l'a emporté. Et Bordiga dit, vous voyez, bon, ben en avril 17, Lénine avait raison, il était tout seul contre tout le monde. Donc c'est là aussi de ces thèses vraiment antidémocratiques. Voilà. Donc il reprend donc toute cette théorie. Il y a des discontinuités, dans lesquelles apparaissent de nouvelles théories. Il y a un peu la théorie de Cuvier en biologie, hein, en géologie, pardon. Donc une tâche du parti, c'est la défense de la théorie marxiste, hein, et du programme communiste. Voilà. Donc là, la doctrine est invariante, immuable. Il n'y a pas de révision, pas de mise à jour. Voilà. Il faut lutter contre les innovateurs, etc. Alors lui, sa thèse, c'était créateur de cours nouveaux. Un cours nouveau, vous savez, il y a eu de nombreux cours nouveaux après 1945, hein, Tito, Mao, etc. Donc il y avait à chaque fois des cours nouveaux. Bon, lui, c'était sa position, c'était créateur de cours nouveaux égale traître. Voilà. Il disait, il n'y a aucun traître dans la partie, dans le mouvement révolutionnaire qui ne soit pas manifesté en disant, il faut enrichir ou il faut modifier la théorie. Bon, alors, c'est une position, donc évidemment, anticréationniste, hein, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à celle du fondateur de l'islam, hein, qui est tout à fait opposé, lui aussi, donc, à ce qu'il appelle l'innovationnisme. Ben, on a un peu la même chose à l'intérieur du mouvement marxiste chez Bordiga, hein. Il était tout à fait opposé, donc, à toutes les nouveautés. Voilà. Donc défense de la doctrine, de la théorie, d'où la question de la restauration. Donc il faut restaurer la théorie une fois qu'elle a été corrompue. Là aussi c'est un thème un petit peu réactionnaire. Hein, il faut la définition d'une restauration. Voilà. Alors Bordiga a toujours défendu, donc c'était pour lui il y avait une école marxiste. Hein, donc si c'est important, une école marxiste qui avait défendu la théorie. Cette école marxiste étant une école au-delà des générations. Hein, on verra que pour Bordiga, le parti, dans le parti, qu'est-ce qu'il y a dans le parti ? Ben, il y a des vivants, évidemment, mais il y a aussi des morts, beaucoup de morts. Hein, et il y a aussi des gens à naître. Voilà. Alors ça, c'est fondamental, ça va être une de ces positions là aussi pérennes. Hein, le parti ne regroupe pas les vivants qui sont là. Voilà. Le parti, c'est quelque chose de transgénérationnel. C'est une vision assez grandiose. Donc dans le parti, il y a les vivants, il y a les morts, et il y a les gens aussi à naître. Vous voyez, il refusait, une position de Bordiga, c'est le refus de la séparation entre les générations. Et une de ses principales rubriques, dans la presse, on verra tout à l'heure, s'appelait « Sul filo del tempo », sur le fil du temps. Et le fil du temps, c'est le fil entre les générations, et donc lui se concevait comme quelqu'un qui devait évidemment transmettre, hein, qui devait transmettre aux générations, évidemment, ce qu'il avait eu. Vous voyez. Donc dans le parti historique. Voilà. Donc en fait, lors de la naissance de la théorie, tout est là. Il n'y a ensuite que développement du germe. Hein? L'origine est belle. Comme dira Heidegger, qui était tout sauf révolutionnaire. Hein? Donc la théorie, elle sort toute armée, hein? comme Athéna qui sort toute armée du crâne de Zeus. Elle sort toute armée de la forge révolutionnaire. Voilà, elle est invariante pour tout le capitalisme. Et donc, il va souvent se manifester, donc comme je vous l'ai dit, contre l'œcuménisme, on le verra avec Vatican II. Hein? Bordiga, là, c'est une petite parenthèse, Bordiga était un grand admirateur de Pie XII, hein? Pie XII qui passe pour un pape assez réactionnaire. Hein? Et bon, il aimait bien Pie XII parce qu'il disait, bah, c'est un adversaire. Voilà, c'est un adversaire clair, on sait qui on a affaire. Un Pie XII, un archi-réactionnaire, il a le courage de ses opinions, ben nous aussi on a le courage de nos opinions, on sait que c'est un adversaire, etc. Il n'aimait pas du tout Jean XXIII et son œcuménisme, et encore moins Paul VI, hein, qui était des papes plus démocrates, plus de gauche, disons entre guillemets, hein, qui pour lui c'était évidemment le comble de l'horreur, c'est l'œcuménisme, hein, c'est tout mélangé, ce que j'avais dit plusieurs fois, et donc évidemment il ne sera pas du tout pour Vatican II, hein. Voilà, et il parlera justement d'œcuménisme à l'intérieur du mouvement communiste, et il se moquera donc de tous les communistes qui veulent abjurer le schisme de 1921 avec les socialistes. Il a écrit un livre que j'ai mis dans la bibliographie, un petit article pardon, qui s'appelle Les abjurateurs de schisme. Voilà. Et il dit dans cet article, Il dit dans cet article la vie de la nouvelle humanité est dans la révolution, et la révolution naît du schisme. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent choquer. On verra que Bordiga n'hésite pas à parler pour la défense de la théorie. Il n'hésite pas à parler de conciles, par exemple. Les congrès de l'international communiste, ils appellent des conciles. Il n'hésite pas à parler d'inquisition, par exemple, ou d'hérésie, par exemple, pour les révisionnistes, etc. Oui. Voilà. Alors, la théorie de Marx, évidemment, est une. Il dit qu'il est absurde, d'opposer un Marx hegélien, un Marx de jeunesse, comme le fut Althusser en France, pas encore très longtemps, à un Marx qui serait plus âgé, plus scientifique, et qui serait le seul Marx valable. Il est absurde d'opposer Marx à Engels, Marx à Lénine, etc. Tout ça, c'est une seule école marxiste. Et après la guerre, en 1958 et en 1959 respectivement, on va découvrir des textes de jeunesse de Marx, des textes qu'on ne connaissait pas, notamment les manuscrits de 1844, et les fameux Grundrisse, qui sont une ébauche de la critique de l'économie politique, et ça va être évidemment... l'occasion pour de nombreux théoriciens de théoriser un nouveau Marx, etc. Bon, Bordiga, lui, s'étonne pas du tout, au contraire, mais il se félicite de retrouver, en fait, la totalité des thèses de Marx. Il dit qu'il y a invariance, confirmation, etc. Bon, à tort ou à raison. Voilà. Alors, Bordiga a souvent été traité de sectaire. Staline a commencé, Gramsci, etc. Il a souvent été traité de sectaire, de talmudiste, de dogmatiste. Coupé de la réalité, etc. Bon, il acceptait ses titres tout à fait, il s'en faisait même gloire. Il s'en faisait même gloire d'être sectaire, d'être talmudiste, etc. Bon, il avait en fait que mépris pour ceux qui font de la théorie à partir de l'actualité, qui pour lui était toujours contingente et qui n'avait pas en fait beaucoup d'importance. Voilà. Un point important aussi qu'il va développer, c'est le refus de l'évolutionnisme. Alors il refuse l'évolutionnisme, c'est-à-dire que pour lui le capitalisme ne va pas disparaître lors de petites crises. Il va y avoir un effondrement absolu. Il va pas y avoir de décadence du capitalisme, il va y avoir une énorme crise, un énorme effondrement, et lors de cet effondrement, ce sera évidemment la révolution. Donc un véritable cataclysme. Voilà. Et bon, je vous lis juste un petit passage. D'un texte qui s'appelle « Invariance historique du marxisme », qui, je crois, donne bien sa position. Il dit « Une nouvelle doctrine ne peut pas apparaître en un moment historique quelconque. Mais il existe des époques de l'histoire données et bien caractéristiques, et même rarissimes, où elle peut apparaître comme un faisceau de lumière. Et si on n'a pas reconnu ce moment crucial, et si on n'a pas fixé la terrible lumière, il est vain de recourir au bout de chandelle avec lesquels le pédant académique ou le combattant de peu de foi s'ouvre la voie. » Voilà. Bon, etc., etc. J'en profite pour faire une petite remarque sur le style de Bordiga. Si vous prenez le petit papier que je vous ai distribué, si vous regardez la page 5, on va s'apercevoir du style. Bon, j'ai mis les titres en français, mais il faut s'imaginer ce que ça peut donner en italien. Regardez par exemple en bas, on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure que les années vont passer, le style de Bordiga va devenir pratiquement, on pourrait dire presque délirant. Mais ne serait-ce que dans les titres. Regardez par exemple, voilà le titre par exemple d'un article. Révolution historique de l'espèce qui vit, travaille et connaît. 1. Le communisme naturel, presque mythe et poésie sociale. 2. Guerre de classe aux infamies privées mercantiles. Et 3. Avènement du message classique et intact du parti communiste. Voilà, c'est le titre d'un article. Si vous regardez plus bas, systématisation ardue du programme communiste révolutionnaire parmi les miasmes de la putréfaction bourgeoise et la pestilence opportuniste. Donc vous voyez, c'était bon, il avait de la verve. Et tout ça, je vous dis, en italien, c'est évidemment, c'est plus beau. Le programme communiste tel qu'il figura au milieu du 19e siècle à travers un siècle de refus de l'infecte culture bourgeoise illumine les ombres du passé, annonce la mort de la civilisation d'aujourd'hui. Et enfin, je vous lis le dernier, la marchandise, monnaie, salaire, libre entreprise, d'autant plus vile qu'elle est petite, honte sociale bourgeoise, haine séculaire de la gauche communiste avec les idéaux d'église, de nation, de démocratie, de possibilisme et de paix. Donc vous voyez, il y a aussi un style. Il y a aussi un certain style. Et là aussi, on reconnaît dans l'écrit, on reconnaît l'orateur en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des textes de Jaurès, mais quand on lit des textes de Jaurès, en fait, on voit que c'est de l'oral qu'il a mis par écrit. Il n'a pas commencé par écrire pour lire après. Bon, lui, c'était un petit peu pareil. Voilà. Alors, un des problèmes importants, c'est l'anonymat. Alors après 1945, donc Bordiga va se dire, donc pourquoi cette faillite du mouvement révolutionnaire? Il remet pas en cause l'existence du prolétariat révolutionnaire. Pour lui, le prolétariat est toujours révolutionnaire, mais il a failli. Il a failli, il a été corrompu, etc. Pourquoi? Principalement à cause du culte de la personnalité. Et donc Bordiga va développer une théorie de l'anonymat qui va pousser jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire que dans le parti donc dans lequel il va duquel il va être donc le dirigeant, hein, donc j'ai passé pour l'instant sur ces problèmes organisationnels, dans le parti dans lequel il va être le dirigeant, un parti donc de centaines de personnes, donc c'est très peu. Bon, tout le monde évidemment est au courant des événements qui se sont passés évidemment entre les deux guerres. Bordiga va pousser l'absurde. Alors aucun article ne va être signé après 1945. Bordiga ne signera jamais aucun article. Tous ces articles sont anonymes. Alors c'est une difficulté pour le chercheur, entre guillemets, d'arriver à retrouver ces articles dans la presse. Hein. Il ne signera jamais aucun article. Dans les documents historiques, il va faire paraître, à l'intérieur donc du parti donc d'après 45, il va souvent, par exemple, publier des articles qu'il a écrits dans les années 20. Et souvent, dans les articles des années 20, il y a marqué, par exemple, prise de parole de Bordiga, tous les congrès de l'International communiste. Prise de parole de Bordiga, réponse de Bordiga, etc. À chaque fois, il va faire ôter le mot Bordiga pour mettre prise de parole du représentant du Parti communiste d'Italie. Hein? Il ne voudra plus absolument que son nom ne figure nulle part. Mais comme une sorte d'obsession, hein? Et d'obsession de l'anonymat. Il ne signera plus absolument aucun article. Juste une petite... J'ai encore 5 minutes. Hein? Bon, une petite anecdote à ce propos. En 1960, alors, ce qui va se passer, c'est que à partir de 1950, Bordiga va tenir des réunions. Il va tenir des réunions internationales. Quand je dis réunions internationales, attention, hein, ça veut dire 50 personnes. Hein. Bon. Il va tenir des réunions internationales, c'est-à-dire principalement françaises et italiennes. Lors de ces réunions internationales, il va parler. Les réunions internationales, en fait, c'est lui qui parle et les autres qui écoutent. Hein, bon, Bordiga était assez dictatorial. Il est totalement opposé à tous les congrès, tous les votes, etc. Il dit évidemment, voter est absurde. Hein? Les principes sont invariants, la doctrine, elle est comme ça. On va évidemment pas voter pour savoir si on doit faire ça ou ça. Et de toute façon, si on votait, la majorité peut très bien avoir tort. Donc de toute façon, il y a dictature des principes, donc les congrès sont inutiles, les discussions sont inutiles, voilà, j'expose la théorie. Hein? Voilà. Alors c'est moi qui l'expose, mais ça peut être aussi d'autres, bien sûr. Hein. Il va essayer tout au long des années de former des jeunes voilà, dans ce qui pour lui estimait être la théorie. Voilà. Alors ce qui va se passer, c'est donc lors de ces réunions, il va exposer des choses qui après ils vont être écrits dans la presse. La presse, c'était principalement le programme communiste. Hein, le programme communiste. Voilà. Donc, dans la presse, vont être reportés les rapports qu'il a fait oralement dans ses réunions. Et évidemment, un de ses gros problèmes, je vous l'ai dit, ça va être expliqué l'énigme russe. Voilà. Donc, il va faire plusieurs réunions, des réunions alors interminables, hein, là aussi, des réunions interminables sur l'énigme russe. Et donc, ces articles, enfin, ces comptes rendus de réunions paraissaient dans la presse sous forme d'articles. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que des personnes malveillantes se sont permis donc de prendre tous les articles qui étaient parus sur la question russe, et ils les ont édités. Ils en ont fait un livre. Alors le titre, si vous voulez, de la réunion, ça s'appelait Struttura economica sociale della Russia d'oggi. Donc structure économique et sociale de la Russie d'aujourd'hui. Voilà, c'était le titre des réunions, qui étaient donc dont les comptes rendus étaient parus dans la presse. Des personnes donc malveillantes ont pris ces comptes rendus, en ont fait un livre qu'ils ont publié sous le nom de Bordiga. Voilà, qu'ils ont publié sous le nom de Bordiga avec évidemment sans lui demander évidemment son avis. Hein, qu'ils ont publié avec une préface de leur cru. Voilà. Et donc évidemment ça fait un scandale. C'était en 66. Ça fait un scandale dans le parti. Et Bordiga a envoyé une lettre à ce qu'il appelait ses nègres. Alors les nègres, qui c'était? Bordiga, il appelait nègres. Alors les nègres, en fait, dans le langage courant, en français comme en italien, c'est ceux qui travaillent vraiment pour quelqu'un qui, lui, ne travaille pas. Bon, donc Bordiga parlait de ses nègres, mais là, c'était complètement faux, c'était lui qui travaillait, en fait, les nègres, bon, il ne faisait pas grand-chose, mais bon, il discutait avec lui, etc., il se réunissait de temps en temps. Voilà, puis il lui fournissait surtout des données économiques dont il avait besoin. Et il avait besoin de gens qui allaient dans des bibliothèques, etc., pour avoir des statistiques de l'INSEE, vous voyez, des choses comme ça. Donc il appelait ça ses nègres. C'est les gens avec qui il était en rapport. Et donc, vis-à-vis à la suite de ce scandale, donc de la parution de ce livre, voilà ce qu'il écrit. Et là, je vous lis la lettre, parce qu'elle est quand même assez aussi significative. Il dit, il y a trois formes de manifestation également à déplorer. Premièrement, celle de celui qui se réjouit que soit finalement en circulation avec les effets publicitaires, la couverture avec le nom et le museau du grand imbécile. Alors, le grand imbécile, c'est lui, bien sûr. Hein? Donc, manifestation à déplorer, donc celle de celui qui se réjouit que soit finalement en circulation avec les effets publicitaires, la couverture avec le nom et le museau du grand imbécile. Deuxièmement, celle de celui qui pense de façon très peu sage que les porcs qui ont fait l'opération sont en train de récupérer le tas de sous que le parti aurait pu encaisser en faisant lui l'ignoble usage de ce nom et de ce museau. Raisonnement qui révèle le non-dépassement de l'esprit boutiquier qui doit nous faire horreur. Troisièmement, celle de celui qui aurait voulu qu'Amadeo, en se qualifiant d'auteur offensé, fasse un grand tapage, sans penser que cela aurait tout simplement fait le jeu des éditeurs improvisés. La considération juste est celle-ci. La diffusion dans l'ambiance bourgeoise moderne, corrompue, des idées imprimées, ne suit pas le jeu de l'offre et de la demande, mais suit les influences capitalistes qui dominent l'État démocratique. Quel que soit l'éditeur commercial, le vil compromis moderne suffoquera toujours la manifestation des thèses qui insultent le prêtre, le père éternel, la démocratie, la liberté et valeurs similaires, désormais sacrées pour l'énorme majorité. On ne rompt ni en agitant le drapeau de la grande personnalité, ni avec les forces anonymes collectives d'un groupe trop petit et trop pauvre. Qu'elles aient ou non le nom d'Amadeo, le rayon de diffusion des publications imprimées sera réduit parce que la curiosité des couches restreintes pour ce vieux crétin, c'est-à-dire lui, qui ne décampe pas de position vieille d'un demi-siècle, ne sera jamais en mesure de rompre la chape de plomb du conformisme. Il en sortira encore moins un bénéfice qui puisse servir de moyen pour résister à l'écrasante supériorité de l'ennemi. Tout le reste n'est que position puérile. Voilà, donc vous avez compris, ce qu'il voulait dire, c'était qu'on est dans une situation, donc de toute façon, qui nous est archi défavorable. Donc, pas la peine d'essayer de se faire absolument connaître, c'était quelque chose qui lui était évidemment affreux à lui. Voilà. Finir, je voudrais aussi vous lire une petite citation. Il concevait la révolution comme un phénomène naturel. Alors, il faut dire que après la Seconde Guerre mondiale, donc il va commencer, Bordiga s'adresse au prolétariat, à l'appeler encore une fois à respecter sa mission, et plus va passer le temps, et plus Bordiga va s'apercevoir évidemment que le prolétariat, ou alors se rallie au parti communiste en général, au stalinisme, puis après au khrouchtchevisme, ou alors se rallie à la démocratie, à la société de consommation, et notamment au culte de la technique, de la science, que Bordiga avait en horreur. Et donc évidemment, il va être de plus en plus agressif, serait exagéré, mais il va être de plus en plus, il va s'adresser, si vous voulez, au prolétariat, en lui faisant des reproches, voilà, en lui reprochant de pas avoir suivre, de plus être révolutionnaire. Et donc il en arrive à concevoir la révolution comme une sorte de phénomène naturel. Je vous lis quand même un beau passage sur la révolution. Il y a eu en 1951 des inondations dans le Pô. Le Pô avait débordé et avait débordé ses digues. Et donc avait inondé toutes les plaines environnantes. Alors Bordiga a fait tout un article, entre autres, ça c'est un détail, pour montrer qu'en fait si le Pô avait débordé ses digues, c'est parce que les digues n'étaient plus entretenues, parce que du point de vue capitaliste, c'était pas très rentable. Donc le capitalisme laissait à volo toutes les ouvrages qu'avait construit l'humanité pendant des siècles. Mais voilà. Mais à la fin, il fait une petite, il élargit, disons, un petit peu le débat, comme on peut dire, même si lui avait horreur des débats. Il dit, le fleuve immense de l'histoire humaine a lui aussi ses crues irrésistibles et menaçantes. Lorsque le flot s'élève, il mugit contre les deux digues qui l'en serrent. À droite, c'est la digue réformiste, pour la conservation des formes existantes et traditionnelles. C'est la digue conformiste, pour la conservation des formes existantes et traditionnelles. Un passage continu de prêtres, psalmodiants en procession, de policiers et de gendarmes en patrouille, de maîtres d'école et de charlatans débitant les mensonges officiels et la scolastique de classe bourgeoise. À gauche, c'est la ligue réformiste, la digue réformiste, s'y entassent les membres des partis populaires, les professionnels de l'opportunisme, les parlementaires et les chefs des syndicats progressistes. Échangeant des injures de part et d'autre du courant, les deux cortèges prétendent posséder la recette pour faire en sorte que le fleuve puissant continue son cours réprimé et forcé. Mais tout d'un coup, au grand moment de l'histoire, le courant brise toutes les entraves, sort de son lit et bondit comme le pot à Guastalla et au Volano, dans une direction inattendue, en portant les deux bandes sordides dans la vague irrésistible de la Révolution, renversant les digues de toutes sortes et donnant à la société comme à la terre une face nouvelle. Voilà, donc c'était un petit peu sa position, vous voyez, dans ce passage presque poétique. Hein. Voilà, évidemment le temps a passé. J'ai encore de quoi vous parler pendant au moins une heure ou deux. Et bon, je crois qu'il faut s'arrêter. Je voulais juste dire les points que je prétendais traiter et que je n'ai pas fait. Hein, je voulais parler du parti, sa conception du parti, qui est une position quand même très originale. Le parti comme organe de la classe. Le parti n'est pas un instrument de la classe, c'est un organe, hein, avec tout c'est évidemment ce que ça comporte. Voilà, je voulais vous parler aussi de la technique, hein, sa critique de la technique, sa critique de la science. Et bon, j'ai pas le temps évidemment de tout développer. Juste un point. À partir de 1957, vous le savez, en 1957, le Spoutnik a été envoyé donc dans l'espace. Et là, Bordiga qui avait une position assez scientiste jusqu'ici. Parce que Bordiga passe son temps à dire que la théorie est immuable et qu'il n'innove pas. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Hein? C'est pas tout à fait vrai. Il innove par rapport à Marx sur de nombreux points. Alors, un point, c'est le problème de l'humanité. Bordiga parle très souvent de l'humanité, là où Marx parle souvent du prolétariat. Hein? Il parle souvent de l'humanité, l'humanité ceci, l'humanité cela. Bordiga a une vision presque aclassiste, si vous voulez. Hein? Il va au-delà de la théorie de classe. Donc ça, c'est quelque chose, un point très important. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je voulais juste parler donc du problème du Spoutnik. Là, Bordiga va innover dans la mesure où il va rompre à partir de 1957 avec un certain scientiste, un certain léninisme. Et il va commencer à critiquer la science parce qu'il s'aperçoit que, en fait, le capitalisme essaye de sortir carrément de la Terre pour conquérir l'espace. Et là, il va s'apercevoir que, contrairement à ce qu'on pensait dans le mouvement révolutionnaire, la science n'est pas du côté de la révolution, mais la science, en fait, est développée par le capital. Hein? Et c'est une arme du capitalisme contre la classe ouvrière, contre l'humanité. Et il va se moquer d'ailleurs de tous les ouvriers qui sont en admiration devant le Spoutnik, etc., et donc devant les soi-disant conquêtes de la science. Et à partir de là, il va écrire, il va fournir une rubrique dans la presse qui va s'appeler « Conquête charlatanesque de l'espace ». Et lui, donc, il n'a que dérision pour cette soi-disant conquête de l'espace. Je dis soi-disant parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Il va démontrer que des photos ont été truquées, etc., notamment par les Américains. Et il ne pense pas, par exemple, que des satellites ont été tournés autour de la Lune. Il n'y croit pas. Il dit que les photos ont été truquées. Bon. Et il ne croit pas du tout, par exemple, à l'exploration spatiale avec des hommes. Il pense que l'exploration spatiale ne peut se faire que par des robots. Et que l'exploration partielle avec des hommes n'est qu'un vaste bluff et aura un coup d'arrêt. Bon, alors, l'avenir dira s'il avait raison. Hein. Les hommes ont marché sur la Lune en 69. En 69, il était près de mourir, Bordiga, et donc on ne sait pas comment il a réagi, comment il a apprécié ça. En tout cas, donc à partir de 57, va se développer une position qu'on pourrait appeler anti-scientifique, entre guillemets, hein, parce que avec pas mal d'ambiguïté, là aussi je peux pas développer. Donc une série vraiment extraordinaire qui s'appelle Conquête charlatanesque de l'espace, qui paraît dans la presse. Voilà. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Juste, hein, regardons donc un petit peu donc les brochures. Alors, là quand même, une lettre absolument extraordinaire qu'il écrit, là on va quand même la lire parce qu'elle est vraiment remarquable, il écrit, c'est en 69, hein. C'est en 69, il va mourir. Il a eu une attaque cérébrale, il s'en est remis, et il retrouve Terracini. Terracini, c'était un de ses anciens amis, un des fondateurs du Parti communiste, c'était un ancien bordiguiste. Il est devenu stalinien, il est passé au stalinisme, et il a lutté après contre Bordiga. Et en fait, dans les années, ils sont revus, je crois, en 68 ou en 67, ils se sont revus, je ne sais plus comment, ils se sont rappelés leurs amitiés, leur amitié de jeunesse, et voilà ce que Bordiga lui écrit. « Cher Umberto, ton cher salut pour le début de cette année, Ton cher salut pour le début de cette année m'a apporté de la joie. Il est clair que je partage avec enthousiasme ton souhait, ton meilleur. Alors, il faut savoir qu'il écrit à un ancien ami qui était devenu son ennemi mortel en tant que faisant partie du Parti communiste officiel. Je suis les nouvelles de ton activité. Je pense que, étant donné la situation, la critique que Lénine t'avait faite était un tirage d'oreille à mon intention. Mais ni maintenant ni alors, elle ne m'a ébranlé. En fait, au troisième congrès, Bordiga n'y avait pas été et il avait envoyé Terracini. Et Lénine s'était opposé à Terracini, donc en fait, à Bordiga. Tu procèdes toujours au mieux, comme tu le fis il y a 40 ans. Bon, c'est ironique, évidemment. Hein. Je me rappelle bien la visite que tu me fis à Naples et je me réjouis également de tout cœur de ta vieille et solide amitié dont je te remercie. Et alors il dit, et là c'est important parce que Bordiga prévoyait donc la crise pour 73, il l'a prévu en 58, il a dit la crise aura lieu en 73 ou 75. Hein. Elle a eu lieu en 73 ou 75, parfaitement comme il l'avait prévu. Le seul problème qu'il n'avait pas prévu, c'est que la révolution allait exploser, évidemment, avec la crise. Évidemment, de révolution, il n'y en a pas eu. Et donc ça, c'était évidemment quelque chose qui a raté dans sa prévision. Et alors voilà ce qu'il dit. Moi, il va mourir. Donc dans son parti aussi, il est incompris. Il dit, moi, j'attends dans une position toujours entêtée et sectaire que, comme je l'ai toujours prévu, arrive au monde au cours de l'année 75 notre révolution plurinationale, monopartitique et monoclassiste. C'est-à-dire, surtout sans la pire pourriture interclassiste, celle de la jeunesse soi-disant étudiante. Bon, ça c'est une prise de position contre 68. Il n'était pas du tout d'accord évidemment avec le mouvement 68. Bon. De notre côté, dit-il, lors de nos vertes années, nous avons fait le mieux qu'il se devait. Donc il y a toute une nostalgie évidemment de son passé, dans l'ancienne amitié. Voilà, bon, et je ne retourne pas dans cette fétide métropole qu'est Naples parce que j'espère guérir dans ce climat meilleur, il est très malade, et avoir vivant le temps de réaffirmer ce que j'ai toujours défendu par le passé. En effet, ma santé s'améliore sûrement et je compte que mon cerveau, certes pas électronique, aura encore à servir à quelque chose n'étant pas du tout vide de science, de technique et de philosophie de l'histoire. Je t'envoie un salut affectueux et chaleureux avec mes meilleurs souhaits et Antonietta, ma femme, se joint à moi, etc. Affectueusement, etc. Voilà, donc c'est le dernier document qu'il a écrit que nous connaissons. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'en ai plus à en dire, mais bon, on va s'arrêter là, je crois. Hein. Voilà. Et bon, bah, vous pouvez garder cette petite chose-là. Hein. Vous verrez, il y a une biographie assez importante après. Il y a, la plupart des articles, enfin, c'est pas la plupart, tous les articles qui sont mis à la fin existent dans une traduction française. Voilà. Donc, mais je peux donner mon adresse électronique si vous voulez. Hein. Donc c'est f.bochet, B-O-C-H-E-T, f.bochet, @, donc free.fr, voilà. Ça aurait fait rire Bordiga, ce courrier électronique, mais bon, voilà. Voilà, donc si vous avez des choses à me demander sur des publications, je peux évidemment vous donner des façons de se les procurer, s'il y a des choses, des textes qui vous intéresseraient. Hein. Ah bien sûr, oui, c'est F point, alors F, moi je m'appelle François, hein, donc F point Bochet, B-O-C-H-E-T, c'est mon nom de famille, B-O-C-H-E-T, voilà, et puis @, et c'est free, le serveur c'est free.fr, voilà.
Merci beaucoup.